très bon week-end à vous.
Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir. À la une ce soir, ce coup de tonnerre dans la vie politique française. Benjamin Griveaux retire sa candidature. Récit de cette journée, réaction en nombre dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, alors que l'entourage de l'ex-candidat à Paris se fait pour le moins discret, la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a accepté de réagir ce soir. Elle était sa colistière dans le 16e arrondissement de Paris. Elle sera mon invitée dans 20 minutes. Maintenant, à 18h30, les grandes voix, avec bien entendu vos réactions sur cette affaire, sur cette déflagration au 39-21. Et puis à 19h30, allez, on n'oublie pas que c'est la Saint-Valentin. On va parler d'amour, on va parler de rock, tiens. Les deux vont bien ensemble et ce sera avec un enfant du rock, Philippe Manœuvre. Votre grand journal du soir démarre jusqu'à 20h pour écouter ensemble Monde Changé.
Vous écoutez Europe 1 ? Il est 18h.
Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
Une déflagration politique et un changement d'époque quand une vidéo intime fait basculer une campagne électorale majeure du jamais vu.
Et Benjamin Griveaux veut protéger sa famille. Qui pour le remplacer dans la bataille pour Paris ? Nos dernières informations dans quelques secondes.
Réunion de crise ce soir à La République En Marche et la classe politique tout entière qui fait bloc.
Évidemment, ces faits-là doivent être poursuivis. Nous avons des lois protectrices dans notre pays. Il est essentiel de les faire vivre.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, on vous dira qui est ce mystérieux réfugié russe qui affirme avoir diffusé la vidéo.
Et qui ne compte pas d'ailleurs s'arrêter là. À suivre aussi la fin de la quarantaine pour les rapatriés de Wuhan.
Les personnels hospitaliers à nouveau dans la rue.
Et les victoires de la musique, c'est ce soir avec une grande favorite.
Angèle, superstar des ventes et des nominations. Elle partage l'affiche ce soir avec Alain Souchon et avec Philippe Catherine. On sera aux dernières répétitions. La bourse de Paris en baisse ce soir de 0,39% à 6069 points.
Et Anissa, bonsoir à vous.
Bonsoir
Bienvenue.
Nathalie.
La couleur du ciel ce week-end ?
Alors, jaune sur une grande partie de la France. Hein. Le soleil va être très présent demain samedi. Le ciel sera gris sur le nord-ouest et les températures seront en hausse encore demain. On va passer la barre des 20 degrés dans le sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Des limites jamais atteintes ont donc été franchies et c'est un coup de tonnerre qui secoue toute la classe politique. Benjamin Griveaux n'a convoqué que deux médias ce matin, une chaîne d'info et l'AFP pour cette déclaration. Voix blanche, ton grave, après la diffusion sur internet d'une vidéo intime à caractère sexuel et d'un échange de messages, il se retire de la course à la mairie de Paris.
Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées, ainsi que des menaces de mort. Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi. Ma famille ne mérite pas cela. Je ne souhaite pas nous exposer davantage, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. Ce projet, pour Paris, il vivra mieux sans moi.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir.
C'est une véritable déflagration politique hein, et tout a été extrêmement vite, en moins de 48 heures. Hein.
Oui, une déflagration et même un tsunami, selon les mots d'un conseiller ministériel. Tsunami qui ravage tout sur son passage en quelques heures. Tout commence mercredi soir avec la mise en ligne de deux vidéos compromettantes par Piotr Pavlensky, un artiste contestataire russe réfugié en France. Au début confidentiel, la diffusion sur les réseaux sociaux prend de l'ampleur hier au fur et à mesure de la journée, notamment avec l'intervention du député Aix-en Marche Joachim Sonneforget qui relaye le blog contenant les vidéos sur son compte Twitter. La sidération s'empare de la Macronie. C'est une catastrophe, glisse un élu parisien abasourdi. Emmanuel Macron en déplacement en Haute-Savoie est prévenu dans l'après-midi. Il échange tard hier avec Benjamin Griveaux. Le président l'assure de son soutien quelle que soit sa décision en l'invitant à protéger les siens. Benjamin Griveaux décide d'annuler ses interventions médiatiques prévues aujourd'hui et donne rendez-vous à son équipe de campagne à 9h ce matin, heure à laquelle il renonce officiellement. Il n'avait pas d'autre choix, comment un élu fataliste, un autre lâche. Il fallait éviter le risque d'un feuilleton à la Fillon, puisque tous les coups semblent permis. On l'a vu aujourd'hui.
Alors il faut maintenant un autre candidat, et vite, parce que les municipales, c'est dans un mois. Écoutez, une très proche de Benjamin Griveaux, la députée de Paris, Olivia Grégoire, pilier de sa campagne. Elle était dans ce studio à midi.
Il y aura une liste La République En Marche, et nous serons présents. Aujourd'hui, nous devons parler avec nos amis, nos partenaires, et c'est ensemble qu'on va réfléchir. On est unis et on est réactifs. Ce ne sera donc pas dans 8 jours que vous aurez une réponse à cette question.
Voilà, ça va aller vite. Il y aura une liste LREM, dit Olivia Grégoire. Aurélie Herbemont, il y a une réunion de crise ce soir. Quelles sont les pistes ?
Alors, c'est la question au centre de toutes les réunions de crise, hein, puisque ce n'est pas la première qui se tient en ce moment. Les réunions se succèdent depuis ce matin. Qui pour reprendre en urgence une campagne qui était, avant même ce coup de tonnerre, compliqué avec En Marche 3e dans les sondages, derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Marlène Schiappa, sauf que la secrétaire d'État a affirmé qu'elle ne serait pas candidate. Delphine Burkly, la maire ex-LR du 9e qui avait rallié Benjamin Griveaux, elle ne semble pas prête à se lancer non plus. Dans ces conclaves, certains disent qu'il faut en profiter pour réconcilier et rassembler la famille politique, histoire de créer un électrochoc qui relancerait la campagne, ce qui plaiderait pour un rapprochement avec Cédric Villani, exclu, je vous le rappelle, il y a 15 jours pour dissidence. Problème, beaucoup sont contre cette idée. Agnès Buzyn, elle dit ne pas y avoir réfléchi aujourd'hui en pleine gestion du coronavirus. Mounir Majoubi, ancien ministre et candidat malheureux à l'investiture, se dit disponible. Aucune décision n'est prise au moment où je vous parle. Au parti, beaucoup espèrent que ça ira vite. Mais la fumée blanche d'ici ce soir n'est pas acquise. Objectif, un plan B d'ici la fin du week-end. Car le compte à rebours est enclenché. Les listes doivent être déposées dans 13 jours. Dernier délai.
Voilà, c'est pas simple.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. On va y revenir longuement ce soir. D'abord à 18h20. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, un colistière de Benjamin Griveaux, candidate elle dans le 16e arrondissement de Paris pour En Marche, sera dans ce studio. Et puis la directrice de campagne de Rachida Dati, cette fois, sera l'invitée d'Aurélie Herbemont à 19h10.
Réaction unanime de l'ensemble de la classe politique depuis ce matin en soutien à Benjamin Griveaux au gouvernement. Édouard Philippe exprime sa sympathie. Sibeth Ndiaye dénonce une campagne de bassesse. Ses adversaires politiques à Paris, Anne Hidalgo appelle au respect de la vie privée. Cédric Villani pointe une grave menace pour la démocratie. Les Parisiens méritent une campagne apaisée, écrit Rachida Dati.
Réaction aussi à la France insoumise. Tous les coups ne sont pas permis. Jean-Luc Mélenchon condamne de son côté une campagne odieuse.
Alors d'où est venue cette vidéo très intime et qui l'a diffusée ? On va s'y arrêter un instant. D'abord écoutez le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui appelle à des poursuites judiciaires.
Évidemment, ces faits-là doivent être poursuivis. Le respect qui est dû à chacun de nos concitoyens, il s'applique aussi à la classe politique. Cela vaut pour celles et ceux qui utilisent tous les moyens pour nuire à la classe politique, mais aussi pour nuire à leurs voisins, à leurs tiers, à des gens avec lesquels il faut se venger. Nous avons des lois protectrices dans notre pays, il est essentiel de les faire vivre. Sinon, c'est au fond non seulement le système démocratique qui serait emporté par ces dérives-là, mais c'est aussi un jeu très pervers qui naîtrait dans les relations humaines. Soyons vigilants.
Christophe Castaner au micro d'Arthur Mbaché. Benjamin Griveaux a déjà annoncé qu'il allait porter plainte pour atteinte à la vie privée.
Bonsoir Mathieu Bock.
Bonsoir.
Un homme revendique être à l'origine de la publication de cette vidéo. C'est un ressortissant russe, Piotr Pavlansky.
Oui, 35 ans, réfugié politique en France depuis 3 ans. Cet homme à la carrure d'athlète et au crâne rasé se présente comme étant un artiste aux pratiques parfois extrêmes. Il s'est automutilé en s'enroulant dans du fil barbelé ou en se cousant littéralement la bouche avec du fil devant le Kremlin pour dénoncer l'apathie de la société russe. Il a mis le feu à la Banque de France en 2017, performance pour laquelle il a fait de la prison et il assume donc parfaitement d'avoir publié ses vidéos concernant Benjamin Griveaux. Cet homme est un hypocrite, a-t-il déclaré à la presse en parlant de l'ancien candidat à la mairie de Paris. Il met en avant sa famille, prône des valeurs familiales, mais en réalité, il envoie des messages de lui se masturbant à de jeunes maîtresses. Alors avant de publier cette vidéo, le Russe a consulté Juan Branco, avocat d'extrême gauche, proche de Julian Assange et de Jean-Luc Mélenchon. Juan Branco, qui a précisé que Piotr Pavlansky avait revendiqué cette divulgation comme étant un acte politique à part entière.
Mais qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui ?
Eh bien là-dessus, la loi est très claire. La porno-divulgation, c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, on connaît plus ça sous le nom de revenge porn, c'est-à-dire le fait de publier des vidéos intimes qu'on a reçues par message privé. Eh bien, depuis une loi de 2016, c'est devenu un délit. Cela peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. C'est donc ce que risque Piotr Pavlansky, mais aussi tous ceux qui ont ont relayé cette vidéo, comme le député anciennement En Marche, Joachim Sonneforger, qui a retweeté cette vidéo hier soir à ses 60 000 followers.
Les précisions ce soir de Mathieu Bock, merci.
Et on en parle évidemment ce soir avec les grandes voix longuement dès 18h30 et vos réactions également, on les attend nombreuses au 39-21.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Ils sont soulagés, ils sont près de 200 rapatriés de Chine à être sortis de quarantaine. Témoignage à suivre dans votre journal de 18h.
Et puis direction la scène musicale à Paris où les victoires de la musique se préparent.
Clara Luciani sur Europe 1, nommée dans plusieurs catégories ce soir des victoires de la musique. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Après 14 jours de quarantaine, près de 200 rapatriés de Wuhan sont sortis aujourd'hui du centre de Carry-le-Rouet.
Enfin libres de retrouver leur famille car tous les risques de contamination au coronavirus sont écartés. Nathalie Chevance, vous en avez rencontré certains, on imagine leur soulagement.
Oui, car même si les conditions de confinement étaient optimales avec des équipes de la Croix-Rouge et de la sécurité civile aux petits soins pendant 14 jours, eh bien c'est quand même un sentiment de liberté qui est ressenti par tous ces rapatriés, heureux d'abandonner leur masque de protection, comme le souligne Sébastien.
Alors c'est un soulagement de ressortir en bonne santé, c'est également un soulagement de pouvoir retrouver une vie normale et d'avoir l'assurance qu'on n'est pas porteur d'un virus, qu'on ne va pas vous contaminer. Ça fait quand même très bizarre de ne plus porter de masque. Et avant le rapatriement en France, il y avait également ces mesures à Wuhan au quotidien pour se déplacer sous peine d'amende et surtout pour préserver sa santé.
Et sur le parking du centre de vacances, on a pu assister à des retrouvailles émouvantes entre des rapatriés et leurs familles venus des quatre coins de la France pour les ramener à la maison. Charles, reconnaissant, retrouve les siens avec un objectif.
Voir mes amis et la famille et bien manger ensemble. Voilà, c'est tout. Chose qu'on n'a pas pu faire depuis très longtemps. Revoir nos proches et en tout cas de le faire librement. Mais effectivement, on devait tout emporter le masque, se laver les mains régulièrement, ne pas se toucher. Et dans tous les cas, si quelqu'un était malade, on savait qu'il serait bien mieux pris en charge en allant en France qu'en restant en Chine.
Des rapatriés qui, pour certains, ont laissé aussi de la famille en Chine, des parents, des conjoints et qui espèrent pouvoir y retourner le plus vite possible.
Nathalie Chevance à Carry-le-Rouet pour Europe 1. Ils étaient donc les premiers à sortir. D'autres suivront dès dimanche. En tout cas, si tout va bien.
Et 3 mois après le grand plan hôpital du gouvernement, la colère est toujours là. Les personnels soignants étaient à nouveau dans la rue aujourd'hui.
Ils ont choisi le jour de la Saint-Valentin pour dire leur amour de l'hôpital public. À Paris, plusieurs milliers ont défilé avec des roses à la main. Urgentistes, médecins hospitaliers, soignants. Écoutez David Grably, neurologue à la Pitié-Salpêtrière.
Les conséquences de la politique de restrictions financières qui pèse sur l'hôpital depuis 10 ans, ça a abouti à une situation qui est une situation inacceptable parce que c'est une situation qui est une situation de maltraitance en série. Les médecins se maltraitent les uns les autres. Les médecins maltraitent leurs équipes infirmières parce qu'il faut faire tourner les unités de soins dans des conditions qui sont des conditions absolument intolérables. Les médecins maltraitent leurs patients parce qu'on est obligé de faire du tri, de sélectionner qui on va admettre, qui on ne va pas admettre compte tenu de cette restriction et de ce manque de lits. Et cette situation, elle est éthiquement inacceptable. Et je ne comprends pas aujourd'hui que le gouvernement, Agnès Buzyn, Édouard Philippe, le président Macron ne nous entendent pas. C'est quelque chose qui est pour moi incompréhensible au regard des enjeux qui sont en train de se dérouler devant nos yeux.
Un témoignage recueilli par Yasmina Katou.
Et puis, autre action très symbolique en ce jour de Saint-Valentin, celle menée par les Fémènes.
Qui, elles, ont investi le romantique Pont des Arts à Paris pour dénoncer une nouvelle fois les féminicides. Avec ce message, on ne tue jamais par amour.
L'actualité économique et les mauvais résultats de Renault Sébastien. Le constructeur est en perte pour la première fois depuis 10 ans.
Résultat, le groupe annonce un plan d'économie et n'exclut pas des fermetures d'usines. On y revient dans le journal de 19h.
Et prenons la direction maintenant de la scène musicale pour les victoires de la musique. Allez, 35e édition ce soir, il y a des favoris.
On parle beaucoup d'Angèle que vous entendez, mais c'est notre Angèle à nous, Angèle Châtelier, qui est pour nous tout près de la scène ce soir. Bonsoir Angèle, est-ce que les répétitions ont commencé ?
Oui, depuis hier même, il faut dire que c'est une édition anniversaire, 35 ans, et le décor fait tout pour faire jouer la nostalgie. La scène est entourée d'écrans sur lesquels seront diffusées des images d'archives, comme des discours d'artistes après avoir reçu leur trophée, Vanessa Paradis, Mylène Farmer, Johnny ou encore Alain Bachung. Danseurs, animateurs, vedettes comme Michel Drucker ou Laurent Ruquier, tout est fait pour que la cérémonie paraisse la moins longue possible, reproche qui lui a souvent été fait. Mais ce soir, il y aura évidemment évidemment du live de tous les artistes nommés, comme Maëlle, pas vraiment anxieuse à quelques heures de la cérémonie.
Je suis très excitée, j'ai vraiment hâte. Là, en plus, on a fait toutes les répétitions, donc j'ai vraiment envie que tout ça se passe, mais je suis un petit peu stressée quand même, vraiment. J'ai quand même une grosse prestation, donc je suis très très fière. Je vais chanter L'effet de masse, qui est une chanson qui me touche énormément.
Donc ce soir, que vous gagnez, que vous gagnez pas, le bonheur est le même ?
C'est ça, exactement. Effectivement, ce serait encore mieux, ce serait la cerise sur le gâteau, mais d'avoir la chance de chanter à la scène musicale, de faire sa chanson avec une prestation quand même qu'on a travaillée, c'est encore mieux, quoi.
Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école.
Maëlle concourt dans la catégorie album révélation aux côtés de Pomme et Malik Djoudi. Enfin, parmi les favoris, il y a évidemment Angèle, reine de tous les classements, et Alain Souchon avec son album I'm 50.
C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous.
Voilà, Alain Souchon sera-t-il l'artiste de l'année, ou bien peut-être Philippe Catherine ?
J'aime être stone avec toi.
Là, on a changé de monde. Hein.
Ouais. Nommé trois fois, tous les deux.
Voilà, Souchon,
Philippe Catherine et Angèle. Nommé trois fois.
Voilà, les victoires de la musique. Donc ce soir, 21h, retransmis sur France 2. Et on salue Angèle Châtelier qui nous racontera tout ça dès demain matin.
Et on va en parler aussi avec Philippe Manœuvre. Il nous rejoint à 19h30, spécialiste rock. Il aime toutes ses musiques. On écoutera encore quelques extraits donc dans votre grand journal du soir. Merci beaucoup Sébastien. L'info revient avec vous à 18h30. Anissa, du côté du temps, retour de la pluie et du vent au nord.
Oui, sur le nord, effectivement, Nathalie, uniquement sur le nord, sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire et sur la Normandie. Demain, le ciel est très couvert et c'est un temps humide qui vous attend. Alors, sur le littoral de la Manche, le vent va souffler jusqu'à 90 km/h. Demain, il va falloir être prudent. Des Ardennes à la Gironde, en passant par la Bourgogne, la région parisienne, le centre Val-de-Loire, là, le ciel est un peu moins chargé, il est juste voilé, donc on verra le soleil. Et puis sur le reste du pays, c'est-à-dire de l'Alsace à l'Occitanie, des Alpes au Languedoc, en passant par la vallée du Rhône, le Massif central, le Limousin. Si j'ai cité votre région là, c'est que demain, vous aurez droit à la plus belle journée de la semaine. C'est-à-dire un grand beau soleil sans presque aucun nuage. Au bord de la Méditerranée, le ciel est un peu couvert demain et dans l'après-midi, le vent se lèvera sur la Corse et le sud. Les températures, elles sont fraîches demain matin. -1 Aurillac et Rodez, 2 à Avignon, 8 à Paris. Dans l'après-midi, les températures sont en hausse puisqu'on ira flirter la barre des 22 degrés dans le sud-ouest.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy avec votre invité dans un instant.
Des vidéos qui ont tout fait basculer. Benjamin Griveaux retire sa candidature à la mairie de Paris. C'est aussi la fin d'une campagne cauchemardesque. Dans deux minutes, la réaction de la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, colistière de Benjamin Griveaux dans le 16e arrondissement de la capitale. Elle s'installe dans ce studio.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, avec cette déflagration dans la course à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux a donc retiré sa candidature après la publication d'une vidéo à caractère sexuel. Nathalie, vous recevez ce soir en direct Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie.
Bonsoir Agnès Pannier-Runacher.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir sur Europe 1. Faut préciser aussi que vous êtes sur la liste de Benjamin Griveaux, enfin étiez en tout cas dans le 16e arrondissement de Paris. Benjamin Griveaux qui a donc tiré sa révérence aujourd'hui même au regard des événements. Comment vous avez eu connaissance de ces faits ? Comment vous l'avez appris ?
Je l'ai appris comme tout le monde par des rumeurs, en fait essentiellement le tweet de Joachim. Et j'étais à la fois extrêmement surprise. Et en fait, je trouve que ça met la campagne à un niveau de caniveau qui est totalement indécent. Enfin, je crois que les Parisiens ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans la salle de bain des gens, et c'est très bien.
Alors
et l'objectif, c'est quand même, aujourd'hui, de mener une campagne sur des projets, de mener une campagne autour d'un projet d'alternance que demandent les Parisiens.
On va y venir. Joachim Sonneforger qui a dit aussi avoir relayé cette vidéo pour prévenir le candidat Benjamin Griveaux.
Utiliser son téléphone, il n'y a pas de problème.
Comment vous avez accueilli ce séisme ? On parle de séisme aujourd'hui. Comment vous l'avez accueilli ?
Avec stupéfaction et je crois avec beaucoup de colère. Parce que moi, je pense à tous ces mois de travail que nous avons passés ensemble pour construire un projet. Je pense aux milliers de militants qui sont sur le terrain. On a le sentiment qu'on nous prive de ce combat qui est le combat pour Paris. On a un projet, on a 477 personnes investies, on a sélectionné, qui ont des talents. Je pense à la liste du Paris 16e. On a beaucoup échangé toute la journée par messagerie, parce que les gens étaient révoltés et veulent continuer la campagne. Ils veulent continuer la campagne parce que nous avons un bon projet pour les Parisiens.
Donc vous, vous restez aujourd'hui candidate pour le 16e arrondissement de Paris.
Évidemment.
Il n'y a pas de...
Évidemment, il n'y a aucune raison et j'ai observé...
Aucune ambiguïté.
Oui, aucune. Okay.
Vous n'avez pas eu Benjamin Griveaux en direct. Vous n'avez pas pu échanger avec lui.
Non, je lui ai mis évidemment un message, mais
vous
je pense qu'il a dû être lui, le soutenant. Je pense que c'est quand même se voir exposer sa vie privée, plus ou moins vraie, enfin,
pourquoi il a pas
de cette manière très brutale, franchement, je ne le souhaite à personne. Et je pense que ce n'est pas intéressant. Je veux dire, le fait qu'on étale ce truc-là n'est pas intéressant. Et c'est aussi à nous de monter le niveau de jeu et de monter le niveau du débat.
On a entendu Édouard Philippe le soutenir. Il a insisté sur la sympathie qu'il avait vis-à-vis de Benjamin Griveaux. Il a insisté sur le soutien aussi, le Premier ministre. Pour l'instant, pas de tweet, pas de communiqué de la part d'Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez ?
D'abord, Emmanuel Macron a un rôle de président de la République et vous le savez, il est actuellement en déplacement.
Bien sûr, mais très proche de Benjamin Griveaux depuis les premières heures
d'En Marche. Mais je n'imagine pas une minute, et d'ailleurs Benjamin l'a dit, qu'il n'ait pas échangé avec le président de la République. Et je n'ai aucun doute sur l'empathie du président de la République pour avoir pu l'éprouver à titre personnel.
C'est Emmanuel Macron qui lui a demandé de renoncer hier à cette candidature pour les municipales.
Benjamin Griveaux, il l'a dit, il a pris cela dans la figure, ça l'expose d'une manière brutale, violente. À un moment, vous avez envie de lâcher l'affaire dans ce genre de situation. Il faut quand même se mettre à sa place une demi-seconde, mettez-vous à sa place, imaginez vos enfants dans la cour de l'école.
C'est très soudain néanmoins, c'est très soudain. Il y a eu d'autres tempêtes politiques, il y a eu d'autres personnalités politiques touchées par des scandales, pas systématiquement de même nature, mais au moins de la même importance, ou presque.
C'est
comment
très différent,
ce choix
c'est un scandale. Ouais. Quand il y a eu des scandales, il y avait une notion c'était des personnalités dont on pensait qu'ils n'avaient pas appliqué la loi, et qui se retrouvaient devant le juge. C'est pas tout à fait la même chose que de voir son intimité ou sa pseudo-intimité étalée devant tout le monde.
Vous dites sa pseudo parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sûre.
J'en sais rien. Et vraiment, je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Je crois que c'est un mauvais débat. Les Parisiens veulent entendre autre chose. Ils veulent entendre parler du projet. Ils veulent entendre parler de nos propositions. Ils veulent faire leur choix. Et d'ailleurs, Madame Hidalgo et Madame Dati l'ont dit. Elles vont le débat et passons à autre chose.
Jeter l'éponge très rapidement, bien sûr le choc, la déflagration, on l'a dit et on a vu l'unanimité quasiment de la classe politique au moment de la révélation de ces événements. Mais la campagne de Benjamin Griveaux, on ne va pas se mentir, elle est à volo en troisième position. Derrière, vous l'avez cité, Anne Hidalgo, Rachida Dati. Est-ce que ça n'a pas été aussi un moyen de mettre fin à tout ça et à toutes ces difficultés là depuis le début de la campagne ?
Alors moi, je n'ai pas la même observation que vous. D'abord, Rachida Dati à 19%. Elle fait le plein de ses voix. On ne gagne pas avec 20%, il faut faire des alliances.
C'est quand même la surprise pour l'instant de cette campagne.
Et tant mieux pour elle, mais 20% ne gagne pas une campagne à Paris. C'est comme ça. C'est le jeu de gagner chaque arrondissement et de gagner les conseillers de Paris fait que 20% ne suffit pas. Il faut pouvoir faire des alliances. Or, nous pouvons faire des alliances. Et la deuxième chose, c'est que 25% pour une maire sortante, c'est vraiment une claque. Ça veut dire que les 6 ans qui se sont écoulés ont fait la démonstration que les Parisiens ne veulent plus d'Anne Hidalgo comme maire.
Ouais.
Donc,
on va y revenir.
Nous d'être capables de construire ce projet d'alternance
mais
et d'éviter de passer des heures sur des vidéos.
Mais Agnès Pannier-Runacher, vous avez peu de temps. La course contre la montre, elle est plus qu'enclenchée. Comment vous allez faire pour sortir du chapeau le candidat, la candidate qui va incarner La République En Marche pour Paris ? Agnès Buzyn a dit non. Elle est très occupée par la crise du coronavirus. Marlène Schiappa, elle a dit non également pour l'instant. Qu'est-ce qu'il reste comme personnalité très emblématique ?
Mais le sujet, c'est qu'on a 477 personnes qui sont engagées.
Ouais.
Ça fait autant de profils, et là je ne vous rejoins pas, autant de profils qui ont du talent et qui sont dans la campagne. La deuxième chose, c'est que nous, notre sujet, et on en a parlé tout à l'heure avec le Modem, on en a parlé avec l'UDI, on en a parlé avec les radicaux, c'est qu'on va aller chercher la personnalité qui incarne le mieux cette campagne. Et on ne manque pas de talent à Paris. Je ne vais pas rentrer dans le jeu des noms, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a une équipe, il y a un ensemble de personnes qui sont prêtes à monter, et je peux vous dire qu'on a deux fois plus envie d'y aller dans ces circonstances, parce qu'on a le sentiment qu'on ne va pas faire du complot, mais il y a quand même un sentiment violent qu'on essaye de nous priver d'aller sur le terrain. Et quand je suis sur le terrain, parce que moi j'y suis toutes les semaines, la campagne, elle n'a pas commencé. Ouais. Vous n'avez même pas toutes les listes encore qui sont déposées. Et les Parisiens sont pour une partie en vacances. Ils sont en train de rentrer doucement dans la campagne. Agnès ils veulent Fénéronaché, les propositions.
J'entends bien, mais quand même, il va falloir sortir un nom très vite. Quand ?
Très vite.
C'est-à-dire ?
Écoutez, on se réunit à 19h et je crois que le mouvement a indiqué que c'était un enjeu du week-end.
Ça peut être Cédric Villani. Cédric Villani, dont on le sait évidemment qu'il y a eu cette rupture avec Benjamin Griveaux, dissident. Mais Cédric Villani, quand même, qui reste un marcheur. Mounir Majoubi, d'ailleurs, qui s'est déclaré intéressé. Il a dit « moi, je suis disponible si on m'appelle ». Ou peut-être Stanislas Guérini, qui pourrait sauver la maison, qui est, évidemment, qui devra quitter le parti.
Mais vous voyez, on est sur le jeu des noms. Ce n'est pas ça qui intéresse les Français. C'est qu'est-ce qu'il y a dans notre programme.
Mais vous savez bien
qu'est-ce que nous allons faire. Je partage, là aussi, c'est pas un one-man show, la mairie de Paris. C'est un enjeu d'équipe. Et avec le travail qu'il y a à faire, avec l'augmentation de la dette de Madame Hidalgo, ouais, avec la situation de la propreté, ouais, avec le fait que Paris a reculé dans toutes les capitales mondiales en termes d'attractivité, c'est ça le sujet
qu'il
faut aujourd'hui.
Mais donc il y aura un candidat marcheur, il y aura un candidat en marche pour ces municipales, c'est une certitude.
Il y aura un candidat qui conduira notre liste de rassemblement. Et cette liste de rassemblement, elle comprend des marcheurs, de l'UDI, des radicaux et du MoDem.
Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'être venue ce soir nous le dire sur Europe 1. Merci à vous.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, avec au programme dans un instant.
Eh bien, le débat des grandes voix, et on va revenir inévitablement sur ce coup de tonnerre politique avec le retrait de Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix et participer à ce débat. Ça se passe au 39-21 en direct sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec vous, Sébastien Krebs, pour le rappel des titres.
Trouver un nouveau candidat pour la mairie de Paris en quelques heures. La République en marche en conclave ce soir pour trouver un remplaçant à Benjamin Griveaux qui renonce à la course à la mairie de Paris après la publication sur Internet d'une vidéo intime. Il va porter plainte. La liberté pour 181 rapatriés de Wuhan. Après 14 jours de quarantaine, ils ont pu sortir du centre de Carry-le-Rouet. Aujourd'hui, tous les risques de contamination au coronavirus sont écartés. Renault n'exclut pas de fermer des usines après les mauvais chiffres 2019. Le constructeur enregistre des pertes pour la première fois depuis 10 ans. On y revient dans le journal de 19h. Et puis le Dieselgate, Volkswagen a proposé de verser 830 millions d'euros pour indemniser en Allemagne 400 000 clients qui demandent réparation. L'accord a échoué à ce stade. Le club de handball Nantes Atlantique se défend de toute illégalité. Accusé d'avoir pratiqué des tests de grossesse sur des joueuses sans leur consentement, il affirme qu'elles étaient parfaitement au courant. Le foot débute ce soir de la 25e journée de Ligue 1. Monaco reçoit Montpellier, c'est à 20h45.
Et vous, c'est à 19h que vous revenez, Sébastien Krebs. Du soleil pour presque tout le monde, nous dit Anissa.
Oui, alors presque tout le monde, parce que la France, elle est quand même coupée en deux demain, avec au sud de la Loire un temps très ensoleillé, avec de la Franche-Comté au Pays Basque, en passant par le Limousin, l'Auvergne, la vallée du Rhône, les Alpes, une journée assez ensoleillée, avec quelques passages voilés. Et puis, au bord de la Méditerranée, un ciel un peu plus couvert. Plus au nord, c'est là que c'est moins sympa demain. De la Vendée aux Ardennes, sur le centre-Val de Loire, la région parisienne, le temps est sec, avec un voile nuageux. Et puis sur la Bretagne, la Normandie et le nord, demain, c'est gris et humide. Voilà pour chez vous.
Dans ça,
les températures. Avec des gelées le matin, moins 1 à Annecy, Aurillac, 3 à Auxerre, 8 à Paris. Dans l'après-midi, ça grimpe. On dépasse les normales de saison, 12 à 15 en moyenne, 15 à 18 au sud et jusqu'à 22 degrés dans le sud-ouest, à Pau et à Tarbes.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie, Mickaël Darmon, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24 et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue en ce vendredi très agité, hein, en tout cas, comme on ne s'y attendait guère. Je n'arrive pas à lire sur vos lèvres, Mickaël Darmon.
14 février.
Mais j'ai dit en ce vendredi.
13.
Mais j'ai dit en ce vendredi.
Ah,
oh, mais je sais bien que vous êtes très habité par la Saint-Valentin, mais
non,
quand même.
Non, pas du tout. C'était par la date, par le calendrier. La Saint-Valentin, c'est un massacre à Chicago lors de la Prohibition.
Voilà. Bon, bah, très bien. C'était la petite minute histoire.
Ouais.
Bienvenue donc à vous. Évidemment, soutien, attaque indigne, inquiétant. La classe politique parisienne et nationale a réagi unanimement et a condamné l'atteinte à la vie privée. Benjamin Griveaux qui retire sa candidature à la mairie de Paris, ce séisme. ce chambardement. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu depuis hier quand on a commencé à l'apprendre. Alors un petit tour de table. Roselyne Fèvre d'abord pour commencer.
Oui, c'est effectivement inédit. Alors la première, je pense que ça pose trois questions. La première, très vite, c'est comment ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de la violation de ces libertés, de ces vols de données? Alors est-ce que cette personne avec qui Benjamin Griveaux correspondait, est-ce que c'est elle qui l'a donné, ou effectivement il y a un problème d'espionnage, donc de vol de données sur le portable. La deuxième question, c'est est-ce que ça méritait qu'il démissionne? Il y a deux aspects. Le premier, donc purement politique, pour protéger son camp, ça c'est évident, protéger sa famille aussi, bien évidemment, et puis peut-être sa capacité de résistance. Il se sentait peut-être pas. Et puis surtout qu'il partait pas très gagnant dans cette affaire. Et puis la deuxième question que ça pose, c'est effectivement la question démocratique qui est posée par les politiques. Une vidéo qui est jetée en pâture, qui met un homme à terre, un homme politique au tapis, qui cède en réalité à cette pression. Et ceux qui ont commis ce délit, si délit juridique, j'en sais rien, il y a, c'est eux qui ont gain de cause. Ah oui. Donc c'est trois questions qui, si je peux résumer, donnent le ton de cette journée. Et effectivement, c'est inquiétant pour la représentation aussi politique.
Quant à la défiance déjà des Français vis-à-vis des politiques, Alexandre Malafaï, elle est là, très installée, elle ne fait que progresser avec un événement comme ça. On n'a pas fini, évidemment, les politiques n'ont pas fini de se faire des ennemis. Mais quand même, il y a plein de choses dans cette affaire. Il y a la capacité de Benjamin Griveaux à, comme ça, trancher en un rien de temps et à dire stop à tout, même si bien sûr il y a une femme, trois enfants en jeu, sa vie personnelle, sa vie politique, sa relation de grande proximité avec Emmanuel Macron, bien sûr. Mais est-ce que c'était utile d'en terminer aussi rapidement?
En tout cas, ça pose vraiment plein de questions, mais lui doit s'en poser beaucoup ce soir. Mais c'est comme à se demander quand même si la vie politique, ça rend pas fou. Parce que très sincèrement, qu'est-ce qui peut se passer comme dans la tête d'un ministre de la République? Il est ministre quand il fait ses vidéos, il est, juste pour le rappeler, ministre de la République en charge, premier cercle d'Emmanuel Macron, et il fait ses vidéos. Alors c'est dans la vie privée, je suis d'accord, mais quand même, je veux dire, il n'a pas des services de sécurité qui l'ont mis en garde, on ne lui a pas dit qu'il fallait faire attention. Il y a quelque chose qui touche à l'impunité, une espèce de sentiment de hors-solitude, dire je fais en tant que ministre n'importe quoi. Et moi j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui en disant oh, la démocratie est menacée. C'est très grave, etc.
Non, parce que
la moralité. Non, mais la démocratie, j'ai entendu, il y a plein de commentaires, etc. Mais ce qui menace la démocratie, c'est pas un excès de moralité, c'est un problème d'exemplarité. Et je crois que c'est ce qui
peut. C'est sa vie personnelle, Alexandre Malafaï. Il fait ce qu'il veut, non ?
Il fait ce qu'il veut, mais quand on est ministre, pardon, je crois qu'à un moment donné, on doit éviter de prendre certains risques ou éviter de faire certaines choses. Voilà. Et
qu'il voulez dire que c'est une bêtise énorme et qu'il a pris, à la fois, pardonnez-moi, mais le sexe plus les réseaux sociaux, les deux mis bout à bout.
Vous ne faites pas ça quand vous êtes ministre de la République. Voilà, à un moment donné, et quand je parle d'exemplarité, surtout dans un monde où on a été représentant du Nouveau Monde, porteur d'un projet de loi qui était celui du retour pour la confiance dans la vie publique, et puis vous arrivez, vous êtes là, vous entretenez apparemment une relation extra-conjugale, vous faites des vidéos bizarres, vous les partagez, vous êtes ministre, vous devez prendre vos responsabilités et exercer ces responsabilités, c'est aller au bout de la démarche et d'être cohérent avec soi-même.
Michaël Darmon, quand on est ministre, on n'a plus le droit à, à se faire plaisir, à une vie, une vie intime.
On a bien évidemment droit à une vie intime, le seul problème c'est tout simplement la partager sur des réseaux sociaux, surtout quand on a asséné moult leçons sur le Nouveau Monde, sur le numérique, sur cette espèce
Est-ce qu'il partageait sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il était juste dans un échange de personne à personne? On ne sait pas encore.
Mais une fois de plus, c'est vrai, on peut pas quand même nier le fait que lorsqu'on est, on est en situation d'être responsable politique, parce que rien de nouveau sous le soleil, des attaques sexuelles liées aux mises en cause sexuelles liées aux personnages publics et aux ministres, on l'a tous connu, on sait qu'il n'y a rien de nouveau. En revanche, on se met en situation d'être un peu moins exposé. Il est en fait une sorte de victime paradoxale. Ce mandat a commencé avec une attaque contre les fake news et tout ce qui pouvait sortir d'Internet et dévoyer la réalité. Depuis hier, on n'entend pas le mot fake news.
Absolument.
Personne ne parle de fake news. Donc en réalité, victime paradoxale. Il subit en droit le préjudice. C'est un délit ce qui lui arrive. Simplement, il en est politiquement responsable parce qu'il est un personnage public qui porte, c'est vrai, le discours de l'exemplarité et du renouvellement des usages et des comportements porté par la Macronie.
On n'a pas fini d'en discuter, les conséquences politiques aussi, parce qu'il y a cette élection municipale dans 4 semaines, un peu moins de ça. Eh ben, on s'en parle dans un instant.
Votre grand journal du soir, il est 18h39.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix jusqu'à 19h ce soir autour de la table. Mickaël Darmon, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24 et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia.
Et un débat des grandes voix animé forcément ce soir plus encore avec Benjamin Griveaux qui retire sa candidature à la mairie de Paris suite à la révélation de vidéos intimes, hein, bien entendu. Le candidat qui s'est expliqué brièvement ce matin. Et nous, on en parle ici. Alors, la question effectivement qu'on se posait, c'est l'avenir de La République En Marche pour ses municipales dans moins de 4 semaines, bien sûr. Et puis aussi, c'est vrai, ce puritanisme, Roselyne Fèvre, vous aviez envie d'en dire un mot, et pour cause, ce puritanisme-là qui s'insère aujourd'hui, qui s'intègre par tous les portes dans notre société, à l'américaine, qui arrive chez nous.
Oui, parce que c'est vrai que les secrets d'alcôve, en France, c'était souvent mis sous le tapis, c'était plutôt les scandales d'argent, et ça a commencé effectivement aux États-Unis, parce que combien d'hommes ont dû démissionner, et ça a commencé cette espèce de, on va dire, de frontière, il y avait une sorte de gentleman agreement aux États-Unis, entre médias et pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas trop. Et il y a eu l'affaire, je ne sais pas si vous en souvenez, Gary Hart en 1987, qui était candidat démocrate à la course à la Maison-Blanche. Et il était vraiment ce qu'on appelait front-runner, c'est-à-dire qu'il y a eu un film d'ailleurs, The Front-Runner, il était le favori. Et il a été poursuivi par les journalistes jusqu'à chez lui, où on a découvert qu'il avait cette relation avec cette fameuse Donna Rice. On s'en souvient, parce qu'il y a un petit côté Farrah Fawcett, ouais. Enfin bon, bref. Et le type a jeté l'éponge, et ça a été le premier dans le fond à céder. Oui, mais c'est à dire ça suffit. Et alors que certains lui disaient mais continue. Et voilà, c'est en fait cette capacité à résister.
Non, Mickaël Darmon. Non, il dit non, Mickaël Darmon de la tête.
Non, parce qu'en fait, très expressif. Ce qu'on a vu récemment, notamment lors de la campagne de Donald Trump, qui avait quand même été pris aussi sur le fait avec des propos extrêmement outrageants. Et injurieux à l'égard des femmes.
Mais c'était des propos, c'était pas des vidéos pornographiques.
Oui, mais il n'y a rien arrivé de ce point de vue-là. On a vu aussi d'autres scandales, notamment avec Clinton, où il est resté quand même en poste, il n'a pas été dégagé. Donc moi, je pense plutôt que c'est... Mais c'est plutôt quand même, là, je trouve, le tribunal numérique qui, je trouve, est plutôt le fait nouveau et qui explique la force, la sidération et la rapidité de traitement de cette affaire. 48 heures.
Ah oui.
48 heures.
Mais on le sait.
Alors qu'en général, ça prend beaucoup plus de temps. On l'avait vu effectivement avec l'affaire Fillon, ça avait pris tout le temps de la campagne et d'une procédure judiciaire. Là, ça prend beaucoup plus de temps.
Ça prend beaucoup moins de temps, mais c'est normal.
C'est la phase B de ce qu'on a trouvé intéressant avec tous les mouvements de libération de parole, MeToo et autres. Eh bien là, on a aussi une phase beaucoup plus compliquée à gérer, c'est-à-dire
c'est la rapidité
du
transfert
médiatique, la dictature de la réputation, qui fait qu'il n'aurait pas pu faire un pas dans la rue.
Bah oui, bien sûr.
Mais il y a aussi le fait que, comme on a franchi beaucoup de règles et beaucoup de lignes pendant des dizaines d'années, forcément, en retour, avec les moyens modernes, il y a un boomerang et on ne tolère plus rien. Et c'est vrai, quand on regarde l'histoire des deux dernières années, c'est assez fascinant. Hein. Entre une malédiction sur toutes les campagnes politiques. Regardez ce qui s'est passé en 2017 avec l'affaire Fillon. Ensuite, on a enchaîné sur les heureuses européennes avec Mme Loiseau qui s'est vue obligée de se retirer. Je parle un instant de la Commission européenne où Mme Goulard a dû également se retirer.
Oui, mais on est dans autre chose. Oui, on est vraiment dans autre chose. C'est un scandale sexuel qui est de sa vie privée.
C'est peut-être, oui, mais sauf que ça nous renvoie, je reviens à cette question d'exemplarité. Ça nous renvoie en fait au fait que, comme il y a eu beaucoup d'impunité par le passé, aujourd'hui on ne passe plus rien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous ne pouvez pas vous présenter, en plus en ayant, comme disait Mickaël Darmon tout à l'heure, en ayant cette espèce de côté chevalier blanc, vous êtes rattrapé par... Alors, par contre, si vous avez commis un délit, c'est normal que vous soyez rattrapé. Là, il n'a pas commis de délit, on est bien d'accord. Sauf que vous êtes face à vous-même et à votre conscience. Et j'insiste beaucoup sur le fait que quand vous prenez des responsabilités, il faut les assumer jusqu'au bout.
Ce qui fait crise aujourd'hui a changé. On voit bien que c'est une crise effectivement, on va dire politico-médiatico-conjugale. On a connu plusieurs depuis Sarkozy, Hollande et d'autres, et à chaque fois ça provenait au fond de ce qu'on a peut appeler le monde un peu plus classique et traditionnel, la presse people, des photos volées, et qui déclenchait une crise.
Là,
on est sur une logique totalement différente, qui est celle qui prend le contrôle aussi sur nos vies. D'autres débats l'ont montré par ailleurs, c'est-à-dire tout simplement les nouveaux médias, les nouveaux moyens d'information qui en fait se retournent parfaitement contre
nous. C'est surtout
nous
la sécurité de ces nouveaux médias.
C'est ça, c'est toute la question aussi. Mais aussi l'utilisation. Mmh. On est, quand on écoute les protagonistes qui assument avoir fait cette attaque, ils disent on est en attaque, ouais. On est en combat politique, oui. Contre le système de Macron.
Exactement. Et on en a encore sous le coude, et ça sortira.
La bataille présidentielle sera aussi une cyberguerre.
Et on doit savoir, quand on est ministre, qu'on peut se faire pirater son téléphone. La chancelière s'est bien fait pirater son téléphone par la NSA, quand même.
Denis nous appelle des Deux-Sèvres. Bonsoir, Denis. Bienvenue,
bonsoir
Denis.
À vous, Nathalie, et aux grandes voix.
Bonsoir.
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 Allez-y, on vous écoute.
Oui, bon, je pense que l'affaire Griveaux, c'est le coup de grâce politique pour les municipales à Paris. Et Dieu sait que l'AREM s'en serait bien passé, avec en plus une réforme des retraites plus qu'enlisée et la sécession de Villani à Paris. Je pense que le cas Griveaux, c'est la bavure politique de trop qui va être annonciatrice d'une déroute électorale aux prochaines municipales.
Ah bah voilà, alors c'est exactement, merci beaucoup pour le passage Denis, parce que c'est exactement là-dessus qu'on va dans cette troisième partie, donc restez attentifs avec nous Alexandre Malafaï, Mickaël Darmon, Roselyne Fèvre, c'est de cela qu'on va parler évidemment. Quelle suite pour les municipales, pour La République En Marche, qui peut remplacer Benjamin Griveaux à ce stade? C'est une course contre la montre qui est enclenchée, il y a des monstres aussi, à tout de suite.
Il est 18h48 sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, vous recevez Mickaël Darmon, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24 et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia, et vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Les marcheurs iront au municipal. Agnès Pannier-Runacher me l'a confirmé il y a encore quelques instants. Il y avait assez peu de doutes de toute façon, mais il faudra un candidat pour remplacer Benjamin Griveaux, et vite, parce que l'échéance est toute proche et il faut sauver les meubles de cette campagne déjà très mal engagée. Il était autour de 10% à Benjamin Griveaux, troisième derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Mickaël Darmon, ça va être très compliqué de le trouver vite et de trouver la bonne personne vite.
En tout cas, la première réunion aujourd'hui a été très nette comme résultat. Personne ne voulait y aller. Donc, Pierre-Yves Bournazel, 18e, a été sollicité, il a dit non. Marlène Schiappa a dit je n'y vais pas. Et d'autres personnes ont reculé. Agnès Buzyn, elle se tâte, mais c'est compliqué. Et puis, elle a aussi maintenant la
le
gestion
coronavirus.
Du virus et de la crise à l'hôpital. Donc, de ce point de vue-là, c'est compliqué. Le seul qui est marcheur, qui a fait savoir qu'il était intéressé à le faire, à reprendre le flambeau, c'est Mounir Majoubi,
ancien
secrétaire d'État donc au numérique, et qui s'était lancé aussi dans la course et qui s'était retiré au profit de Benjamin Griveaux. Il a fait savoir, bon, pour l'instant, ça ne donne pas vraiment de résultats. Bien évidemment.
Reste, pardonnez-moi, Cédric Villani.
Bah non, il a été exclu. C'est la raison pour laquelle, voilà. C'est là où je voulais en venir. En fait, tout cela, toute la scénographie d'aujourd'hui, c'est quelque part un peu pour amuser la galerie et pour permettre aux gens de parler. Mmh. La seule personne et le seul endroit où ça va se décider, c'est bien évidemment avec le président de la République et dans son bureau.
Alexandre Malafaï, là, il n'y a pas de sujet. C'est Emmanuel Macron qui va trancher de toute façon. S'il veut que ce soit Marlène Schiappa, ce sera Marlène Schiappa, par exemple.
Voilà, il va faire comme il a toujours fait. C'est-à-dire que globalement, c'est lui qui prend à peu près toutes les décisions en la matière, sauf dans le cas de Cédric Villani qui lui a dit non. Mais il y a peut-être une opportunité. Hein. On ne sait jamais. Tout
en la personne
possible.
Vous voyez déjà
Je pense qu'il faudrait qu'en fait, maintenant, il faudrait qu'il fasse un ticket avec quelqu'un qui était un des candidats à la mairie de Paris, peut-être Hugrençon, peut-être Mounir Majoubi, avec Cédric Villani. Il y avait une incompatibilité entre Benjamin Griveaux, Villani et Rançon, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'incompatibilité entre Hugrençon et Cédric Villani, bien au contraire. Il n'y a pas d'incompatibilité entre Mounir Majoubi, Cédric Villani et Hugrençon. Ils peuvent faire un ticket à deux ou à trois, et là, ils peuvent occuper le terrain de manière intelligente et envoyer un message.
Ils peuvent occuper le terrain de manière intelligente, même s'il y a un ticket Roselyne Fèvre. Est-ce que c'est suffisamment costaud en face d'une Anne Hidalgo ou d'une Rachida Dati qui va être...
qu'on envoie Pierre-Paul Jacques, le résultat est le même, c'est... qui que ce soit, ils iront à Canossa. Parce que le mal est fait, parce que ça fait un bout de temps que c'est en train de se tordre dans la Macronie. Hein. C'est un contexte qui est complètement tragique. On voit dans la réforme des retraites, le gouvernement se perd comme dans la mer des Sargasses, on n'en voit pas le bout. Le parti, on voit bien qu'il a peu d'implantation, qu'il n'arrive pas à quadriller le territoire, que c'est un parti sans être vraiment un parti, frondeur pas frondeur, godillot pas godillot. Enfin, il y a eu ce micmac sur l'enfant.
Donc qu'est-ce que vous en pensez? j'entends bien, mais il va falloir quand même envoyer un candidat.
Oui, bien sûr,
juste pour faire de la figuration.
Comme le disait très justement, parce que je ne vole pas à César ce qui est à César, avant d'entrer dans ce studio, Michael disait il faut désigner un perdant.
C'est ça.
Voilà,
un figurant, voilà, c'est ça. Quelqu'un, donc on ne va pas certainement pas sacrifier Marlène Schiappa ou Agnès Buzyn. Elles vont s'abîmer, personnalité beaucoup trop emblématique. Donc on y va en perdant, on le sait très bien.
Bah en fait, ce que cette affaire raconte, hormis d'abord, si on revient quelques instants au mot de l'auditeur tout à l'heure, en parlant de bavure, d'abord, ça montre bien l'irruption de la morale dans l'analyse politique. Donc, il y a le sentiment qu'une faute a été commise et qu'il y aura donc une sanction. Et puis après, effectivement, je pense que cette campagne municipale, on s'attendait à ce qu'il y ait une crise à sa sortie. Ouais. Bien évidemment, comme d'habitude, on est surpris, c'est avant. Elle vient montrer et cristalliser la fin de l'efficacité de ce système du en même temps. Le en même temps devient un contre-temps. C'est-à-dire, Emmanuel Macron va devenir le président du contre-temps. Parce qu'on voit bien que toute cette mécanique et de tentative de dépasser les clivages et de faire une sorte de centre, un peu de gauche, un peu de droite, les Français ne comprennent pas. Comprend bien que la dynamique politique qu'il y a en ce moment à Paris est au fond peut-être un retour, peut-être, des électeurs de la droite au bercail. Et ça peut dessiner périmètre de la future campagne présidentielle.
Et je voulais juste vous interroger tous sur une chose, c'est que Nicolas Sarkozy, bizarrement là, on a reçu l'information tout à l'heure, Nicolas Sarkozy apportera son soutien à Rachida Dati en meeting le 9 mars. Non, je me disais, Rachida Dati qui est à 20% à peu près dans les sondages, donc juste derrière Anne Hidalgo, qui est un peu la surprise quand même de ces municipales, de cette campagne pour l'instant. Nicolas Sarkozy plus populaire que jamais, ou presque. Aujourd'hui, Benjamin Griveaux qui incarnait aussi cette droite d'En Marche, ça veut dire quoi ? C'est cadeau là pour Rachida Dati ?
Il est populaire parce qu'il n'est pas là.
Mais évidemment, ça, tout le monde le sait.
C'est normal.
Mais ça reste porteur. Donc pour Rachida Dati, c'est un boulevard.
Vous voyez, la politique, il y a quelques mois, personne ne croyait en Rachida Dati. Elle y est allée et on se disait, ça peut marcher sur un malentendu. Le malentendu, le voilà. Et puis, surtout, ce que disait Michael est très juste. C'est-à-dire que ce en même temps a été une très bonne formule pour gagner, mais très mauvaise formule pour gouverner. Parce que tout le monde y perd son latin. Et peut-être que le clivage gauche-droite, Emmanuel Macron s'était félicité d'avoir fait exploser tout ça, mais le problème, c'est le boomerang.
Oui, Alexandre, pour conclure.
Oui, il faudrait vite surtout qu'on se remette sur le fond, parce que très sincèrement, il faut se mettre à la place des Français.
Le fond, c'est pas tellement plus clair.
On est en permanence en train de faire des polémiques sur des personnes. Ils aiment bien que les Français qu'on s'occupe d'eux, qu'on parle des projets. On en est très loin, et je pense que malgré tout ça va attiser des votes qui seront des votes sanctions.
Sauf que quand on parle des projets, typiquement des retraites,
malheureusement,
on n'y comprend rien.
Oui, les projets, on en parle sur le fond assez régulièrement. Malheureusement, là, aujourd'hui, on est quand même pris par une affaire qui a aussi des significations, mais qui n'est pas dans la première tête, dans la première préoccupation des Français, c'est vrai.
C'est sûr. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci d'être venus en ce vendredi.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre, c'est Sébastien Krebs qui nous rejoint dans un petit instant pour un nouveau journal complet. Et bien sûr, ce coup de tonnerre en politique, l'affaire Griveaux et le départ de Benjamin Griveaux qui ne sera pas candidat à la mairie de Paris.
Et vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir, jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy avec le programme de la prochaine heure, Nathalie.
Exit Benjamin Griveaux à 19h10, on en parle. C'est terminé pour Benjamin Griveaux dans cette course à la mairie de Paris, une aubaine. Pour Rachida Dati, Aurélie Herbemont pose la question directement à sa directrice de campagne, Nelly Garnier, sera son invitée ce soir. 19h20, demain en France, demain dans le monde. Et à 19h30... Vous connaissez, hein? Aerosmith, I don't want to miss the thing. Avec l'accent, s'il vous plaît.
C'était la bande originale d'Armageddon?
Oui, exactement. Oh, un film à grand spectacle. De la musique et du romantisme en ce jour de Saint-Valentin. On réécoute les anthologies du rock, les plus grandes chansons d'amour avec l'incontournable Philippe Manœuvre. Il sera avec nous jusqu'à 20h. Marion Sauveur aussi pour des gourmandises du vendredi.
On va manger de très bonnes choses. Et puis si vous voulez poser vos questions à Philippe Manœuvre tout à l'heure, n'hésitez pas. Appelez-nous dès maintenant au 39-21. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Cette campagne, il faut qu'elle continue et il va falloir qu'on trouve aussi une tête de liste. Donc on discute. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette tête de liste, elle rassemble.
La course contre la montre enclenchée pour trouver un nouveau candidat à la mairie de Paris. La République en marche en réunion de crise ce soir.
Déflagration politique et nouvelle limite franchie après la publication de cette vidéo très intime. Benjamin Griveaux va porter plainte.
Pour la première fois depuis 10 ans, le groupe Renault essuie des pertes et n'exclut pas des fermetures d'usines. Et puis ces accusations troublantes dans le monde du handball. Le club Nantes Atlantique accusé d'avoir pratiqué des tests de grossesse sur ses joueuses sans leur consentement.
La tendance météo avec Anissa.
Demain, du gris au nord-ouest et du soleil sur les trois quarts sud. Une journée plutôt agréable pour débuter le week-end. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Qui, pour prendre la suite, la question agite le parti présidentiel ce soir après ce coup de tonnerre. Renoncement de Benjamin Griveaux qui abandonne la course à la mairie de Paris après la diffusion sur Internet d'une vidéo très intime. La République En Marche est en réunion de crise ce soir. Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes sur place. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein.
Oui, les réunions s'enchaînent ici au siège de La République En Marche. Des réunions avec les têtes de liste du mouvement, mais aussi les alliés du parti de la majorité. Toute une après-midi de discussions, de négociations pour évoquer la suite de la campagne. Car une chose est sûre, il y aura bien une liste LREM à Paris. Le député Mounir Majoubi.
On essaie de se mettre d'accord parce que ce qui est important pour nous, c'est que cette campagne elle continue. Et il va falloir qu'on trouve aussi une tête de liste. Donc on discute. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette tête de liste, elle rassemble et qu'elle soit capable, du Modem à l'UDI, en passant par les radicaux et La République En Marche, eh bien de recréer une dynamique. Et on se retrouve tous à partir de lundi pour redémarrer. Cette campagne, il faut qu'elle continue. Et c'est ça le choix que nous avons fait.
Alors qui pour remplacer Benjamin Griveaux à un mois du scrutin? Une décision sera prise rapidement, mais pas dans la précipitation, répète-t-on ici, sans doute dans le courant du week-end.
Jean-Gabriel Bourgeois en direct depuis le siège de La République En Marche.
Et Cédric Villani, le candidat dissident, vient de redire son soutien à Benjamin Griveaux et à sa famille. C'est tout le monde politique qui est secoué et qui fait bloc.
Une réaction unanime tout au long de la journée. Anne Hidalgo a appelé au respect de la vie privée. Les Parisiens méritent un débat apaisé, a dit Rachida Dati, la candidate de la droite.
Sa directrice de campagne sera dans ce studio d'ailleurs juste après ce journal, invitée d'Aurélie Herbemont.
Benjamin Griveaux, lui, va porter plainte pour atteinte à la vie privée. Un homme a revendiqué être à l'origine de cette vidéo à caractère sexuel. Un ressortissant russe, réfugié politique en France, il risque des poursuites pour porno-divulgation. Il affirme tenir ces images d'une source qui a eu une relation consentie avec l'ancien candidat d'En Marche.
En tout cas, une limite a été clairement franchie dans une campagne électorale. Qu'en pensent les Parisiens? Eh bien, Marine Protet est allée leur poser tout simplement la question.
C'est vraiment scandaleux qu'il soit obligé de démissionner à cause de ça. D'abord, c'est un acte de sa vie privée. Et puis, les réseaux sociaux aujourd'hui cherchent à détruire les gens, leur réputation et autres. On ne peut pas juger un homme sur quelque chose qu'il a fait dans sa vie privée et qui ne touche à l'intégrité de personne.
Il fait de la politique. Pourquoi l'attaquer sur sa vie privée? C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on s'en fiche, ça ne nous regarde pas.
On n'a pas comme à s'immiscer dans la vie des gens. Bon, après, je suis quand même étonné qu'on puisse retrouver des vidéos, que tous ces personnages politiques ont toujours des casseroles derrière eux, en vidéo, en écoute, je sais pas. Moi, quand on est un personnage public et politique, je pense qu'on devrait faire peut-être un tout petit peu plus attention à sa vie privée.
J'ai rien pour ou contre lui-même, mais ça ne fait que contribuer à détourner les gens de la vie politique et de la participation aux démocraties.
Des propos recueillis par Marine Protet à Paris. L'actualité politique, c'est aussi ce soir ce record, 41 000 amendements déposés à l'Assemblée nationale en vue de l'examen dans l'hémicycle, cette fois de la réforme des retraites. Il doit commencer lundi. 41 000, dont 23 000 de la part des Insoumis.
Ils sont sortis de quarantaine. 181 rapatriés de Wuhan en Chine sont libres.
Libres et en bonne santé. Tous les risques de coronavirus sont écartés. D'autres vont rester encore quelques jours dans le centre de Carry-le-Rouet. Et on apprend ce soir pour la première fois qu'un cas a été détecté en Afrique, en Égypte.
L'inquiétude chez Renault. Après une année dans le rouge, le constructeur enregistre des pertes pour la première fois depuis 10 ans.
Maud Descamps, le groupe annonce donc un plan d'économie de 2 milliards d'euros et pourrait même fermer des usines.
Oui, le groupe a annoncé ce matin une perte nette de 141 millions d'euros en 2019. Ces baisses sont essentiellement dues au recul des ventes, notamment en Chine, et aux difficultés de Nissan. Et pour redresser la barre, le groupe va mettre en place un plan d'économie. La directrice générale par intérim de Renault, Clotilde Delbos, n'exclut pas des fermetures d'usines.
Nous avons besoin de faire ces économies de 2 milliards d'euros. Il n'y a aucun tabou, tout est sur la table. Je ne pense pas qu'il serait crédible si je vous annonçais que nous allons faire 2 milliards d'euros d'économies sans toucher à aucune de nos implantations ni à la manière dont nous travaillons.
Du côté des syndicats, c'est l'étonnement. Franck Daout de la CFDT explique ne pas avoir été mis au courant de la situation par la direction.
On n'a jamais eu d'informations sur les difficultés de l'entreprise. Je pense que Mme Delbos aurait pu se passer de cette provocation que de dire que tout est possible, même la fermeture de l'usine, mais au moins que cette approche soit partagée en avance de phase avec les partenaires sociaux avec quelques explications. Là, il n'y en a pas, on n'en a toujours pas à l'heure où je vous parle.
Et les perspectives pour l'année 2020 ne sont pas plus réjouissantes. Renault prévoit une baisse du marché automobile, notamment un recul de 3% en Europe.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. L'hôpital public à nouveau dans la rue. Aujourd'hui, plusieurs milliers de médecins, urgentistes, personnels soignants ont défilé à Paris, notamment Rose à la main, en ce jour de Saint-Valentin, pour dire leur amour pour leur métier et réclamer à nouveau des moyens.
L'histoire secoue le monde du handball. Des tests de grossesse ont-ils été réalisés sur des joueuses du club de Nantes sans leur consentement?
Ce serait évidemment illégal. C'est ce que dénonce l'association des joueuses et joueurs professionnels de handball. Le président du Nantes Atlantique Handball s'est défendu aujourd'hui. Charles Guyard a suivi pour Europe 1 sa conférence de presse et vous allez l'entendre, elle a commencé dans un climat plutôt tendu.
Vautours, corbeaux, c'est par des insultes que les premiers journalistes ont été accueillis par un administratif du Nantes Atlantique Handball ce vendredi. Depuis la veille au soir, l'actuel troisième de D1 féminine est au cœur d'une tempête. Des tests d'hormones auraient été effectués l'été dernier sur tout l'effectif sans consentement par le médecin du club. Objectif, découvrir une éventuelle grossesse. Après une demi-journée de silence et une réunion de crise en début d'après-midi, joueuses, coachs et présidents ont à l'unisson démenti les accusations du syndicat, à l'image de Camille Aiglon-Sorina, international tricolore.
Il n'y a rien qui a été fait de manière insidieuse. Était vraiment dans notre intérêt en tant que joueuse. C'est pour ça qu'on est là, nous, à cette table, parce qu'on veut faire front et dire qu'on a confiance en notre médecin. Il a fait ce qui était le mieux pour nous. Aucune de nous ne remet en question le professionnalisme de Thibaut et son intention.
Thibaut Berlivet, le médecin qui a préféré garder ses explications pour le Conseil de l'Ordre et son avocat, car le praticien référent maternité pour les sportifs de haut niveau n'exclut pas une action en justice contre le syndicat, une action à laquelle le Nantes Atlantique Club pourrait s'associer. Nantes, Charles Guyard pour Europe 1.
Allez, on change complètement d'univers. Ce soir, place à la musique.
Allez, reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez, reste.
Avec Vianney et Boulevard Désert, ils sont nommés dans la catégorie chanson originale de l'année. Ce soir, ce sont donc les Victoires de la musique, 35e édition. C'est à 21h sur France 2. Parmi les autres nommés, on va citer Angèle, Clara Luciani, Alain Souchon, Philippe Catherine, et puis les révélations Pomme, Suzanne, Maëlle. Des nouveautés cette année, moins de catégories pour aller plus vite, ce sera plus court. Mais du coup, les trophées récompensant le rock, le rap ou les musiques du monde ont disparu.
Ça va, ça vient.
Slimane et Vita, soufflé par Anissa. Merci Anissa. Mais c'est beau, on aime bien.
On aime bien, on aime bien. C'est le tube du moment.
On écoute encore d'autres sons avec Philippe Manœuvre dans 20 minutes. Il nous rejoint dans ce studio. Merci beaucoup Sébastien. Vous revenez aussi avec de nouvelles infos à 19h30. Anissa, le temps, une France coupée en deux.
Oui, c'est ça exactement Nathalie. Avec au sud de la Loire, demain un temps assez ensoleillé. Sur la Franche-Comté jusqu'au Pays Basque, en passant par le Limousin, l'Auvergne, la vallée du Rhône, les Alpes. Là, c'est une journée bien ensoleillée avec très peu de nuages. Au bord de la Méditerranée, le soleil sera bien là, présent, mais dans un ciel un petit peu plus couvert. Plus au nord, de la Vendée jusqu'aux Ardennes, en passant par le centre Val-de-Loire, la région parisienne, le temps est sec. Ensoleillé avec tout de même un voile nuageux qui viendra gâcher l'impression de beau temps. Sur la Bretagne, la Normandie et le Nord, le ciel est gris avec des averses en Bretagne sur la pointe du Finistère. Les températures demain, dégelées le matin, moins 1 à Annecy, Aurillac, 0 à Montluçon, 3 à Auxerre, 8 à Paris. Et au meilleur de la journée, elles grimpent ces températures. 12 à 15 en moyenne, 15 à 18 au sud et nous allons passer la barre des 20 degrés avec même 22 degrés à Pau demain.
Je ne valide pas.
Un 15 février.
Voilà, c'est ça. Alors rendez-vous au mois de mai. Merci Anissa, à tout de suite.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
On va revenir sur l'actualité politique avec vous, évidemment Aurélie Herbemont est votre invitée ce soir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir. Mon invitée ce soir, Nelly Garnier, directrice de campagne de Rachida Dati à Paris et candidate LR dans le 11e arrondissement. On va parler bien sûr de l'abandon de Benjamin Griveaux.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, tout de suite place à l'interview politique.
Avec vous Aurélie Herbemont et votre invitée ce soir, Nelly Garnier, directrice de campagne de Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris.
Bonsoir Nelly Garnier.
Bonsoir.
Ce matin à 9h, Benjamin Griveaux a renoncé à la candidature à la mairie de Paris après la mise en ligne de vidéos intimes par un artiste russe contestataire réfugié en France. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en l'entendant ce matin ?
Écoutez, Rachida Dati a réagi hein, à son retrait, elle l'a pris acte. Et écoutez, nous respectons sa décision qui est prise pour sa famille. Et c'est vrai que comme Rachida Dati, je pense à sa famille parce qu'elle le sait, elle aussi, quand on a une vie publique, quand on a un engagement public, eh bien, on a aussi toute sa famille qui peut être impactée et qui n'a rien demandé. Et donc, nous respectons sa décision et voilà, on ne commente pas plus ce sujet qui a été largement commenté toute la journée.
Alors, le communiqué de Rachida Dati était un peu laconique. Mmh. Je vais le donner pour nos auditeurs. Les Parisiens méritent une campagne apaisée et digne à la hauteur des enjeux majeurs pour l'avenir de Paris. C'est ce qu'elle écrit notamment. Certains trouvaient que ça manquait un peu de compassion avec Benjamin Griveaux. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Écoutez, c'est vrai que pour nous, l'urgence, c'est d'avoir le débat de fond sur la campagne et de pouvoir vraiment mener cette campagne. J'étais sur le terrain ce matin, moi, au marché de Belleville, dans le 11e arrondissement. Rachida Dati est en ce moment même dans le 10e arrondissement avec notre tête de liste Bertil Faure pour un café politique. Nous voulons continuer à parler aux Parisiens parce qu'ils attendent des réponses. Vous avez une majorité de Parisiens aujourd'hui qui veut tourner la page d'Anne Hidalgo. Et donc, il faut être là, sur le terrain, pour discuter avec eux et leur apporter des solutions concrètes.
La campagne doit reprendre ses droits.
Mais j'ai envie de vous dire, elle n'a jamais arrêté. Moi, j'étais ce matin à environ 11h sur le marché de Belleville, boulevard Ménilmontant. Et de quoi m'ont parlé les Parisiens que j'ai rencontrés ? Ils m'ont dit « les rues sont sales », ils m'ont dit « il y a une hausse de la délinquance, on a des problèmes rue Oberkampf avec les établissements nocturnes ». Ils m'ont parlé de Paris.
Ils ne vous ont pas parlé de la déflagration dans
Écoutez,
la campagne ?
Moi, les Parisiens que j'ai rencontrés ce matin, ils m'ont parlé de Paris. Ils ont été une majorité à me dire qu'ils étaient déçus de Paris, qu'ils étaient écœurés de l'état de Paris aujourd'hui, qu'ils voulaient qu'on leur propose un autre projet. Et c'est ce que nous faisons avec Rachida Dati. Elle est en ce moment même en train de rencontrer des Parisiens pour leur dire qu'elle est une alternative à Anne Hidalgo.
Alors, celui qui a divulgué ces vidéos revendique le côté politique de son acte. Est-ce que ce climat, ce côté tous les coups sont permis, même les pires, vous inquiète pour la vie démocratique ?
Écoutez, nous considérons qu'une campagne, elle doit se faire sur le fond, de projet à projet. Et je ferai remarquer d'ailleurs que Rachida Dati, depuis le début de cette campagne, est critiquée sur le fait qu'elle dit respecter Anne Hidalgo et ne jamais l'attaquer sur autre chose que sur ses propositions et l'action qu'elle a menée à Paris. Nous avons toujours respecté les personnes. Nous sommes à chaque fois uniquement sur de la critique, sur le bilan, sur les propositions. Et donc, bien évidemment, nous voulons que la campagne, elle se joue sur le débat de fond.
Vous nous parliez, Nelly Garnier, de Rachida Dati et de votre réaction ce matin. Mais quand même, quand vous voyez ce genre de déflagration qui touche un concurrent, qu'est-ce que vous vous dites ? On est tous en danger dans ce milieu politique ?
Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il y a une transparence totale qui peut être regrettable, mais qui est la réalité. Et surtout, il y a le fait que les citoyens attendent qu'on soit en cohérence entre ce qu'on dit et les actes. Et donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est juste la réalité d'aujourd'hui. Il y a cette transparence totale qui est liée aux nouvelles technologies, à plein de choses, qui amène une extrême vigilance et responsabilité de la part des responsables politiques.
Oui. Vous parlez de responsabilité, vous considérez que Benjamin Griveaux a commis une erreur,
moi je n'ai pas de jugement à porter, nous ne portons pas de jugement, il a pris sa décision et nous la respectons.
Ça vous inquiète ? On voit que toute la classe politique, depuis ce matin, oscille entre sidération, tristesse, colère de voir qu'on peut en arriver à ces extrémités-là. Vous vous dites, on a un problème aujourd'hui en France ou pas ?
Écoutez, je vous le redis, une campagne, elle devrait uniquement se jouer sur des propositions, des visions différentes, des projets et des débats de fond. Donc, effectivement, ce qui devrait acter le cours d'une campagne, ça devrait uniquement être les questions de projets et de propositions. Bon, voilà, il y a eu plusieurs exemples qui montrent que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous, c'est pour ça que nous voulons continuer à parler aux Parisiens. Nous voulons qu'ils puissent avoir le droit à cette campagne, qu'ils puissent se prononcer sur nos projets. Parce que la réalité, c'est qu'ils veulent qu'on leur propose une alternative à Anne Hidalgo et qu'on ne doit pas, on ne doit pas sortir de cette réponse qu'on doit leur apporter. Nous, on considère qu'on a une chance historique de gagner Paris aujourd'hui. Et c'est notre responsabilité de ne pas laisser passer cette chance.
Les cartes sont effectivement rebattues quand un candidat majeur à une élection est empêcher, arrêter dans sa campagne. Vous souhaitez aux marcheurs qui n'ont ce soir plus de candidats de trouver quelqu'un rapidement, ou vous vous dites après tout, c'est peut-être bénéfique pour la campagne de Rachida Dati?
Écoutez, nous avons toujours dit, Rachida Dati l'a dit il y a un bon moment, elle n'a qu'un seul adversaire, c'est le bilan d'Anne Hidalgo. Voilà, elle a qu'un seul adversaire, c'est le bilan d'Anne Hidalgo. Et depuis des mois, on nous presse de faire des accords d'appareil. Nous disons, nous ne parlons qu'à une seule personne, ce sont les Parisiens. Les électeurs, ils n'appartiennent à personne. Les électeurs de Benjamin Griveaux, ils n'appartiennent pas à Benjamin Griveaux. Comme, voilà, ce sont des Parisiens. Nous parlons à tous les Parisiens et nous leur disons, aujourd'hui, nous avons une chance historique de prendre Paris à Anne Hidalgo. Si vous voulez tourner la page d'Anne Hidalgo, eh bien, l'alternative, c'est Rachida Dati.
Et sur le côté violence en politique, là, on en a atteint un summum, sans doute, de violence. Est-ce que vous craignez que ça décourage l'engagement d'autres personnes? On sait que la vie politique peut être extrêmement violente, extrêmement, vous le disiez tout à l'heure, pour soi, pour son entourage. Vous croyez que ça peut décourager des vocations?
Bah écoutez, Rachida Dati l'a dit, elle a subi des violences extrêmes, elle l'avait dit, contre sa fille, parfois même des menaces de mort, des écoutes, des choses qui sont allées très très loin. Et elle a ça chevillé au corps, elle a dit « vous ne me ferez jamais céder parce que les combats que je porte en moi, ils sont tellement forts qu'on ne m'arrêtera jamais. Et si j'avais voulu m'acheter une vie tranquille, eh bien oui, je serais allée travailler dans le privé, j'aurais fait quelque chose. Mais non, là, elle vit comme une urgence son action politique. Elle l'a toujours vécu. Quand elle a mené des actions à la justice contre les violences faites aux femmes, contre la lutte contre la toxicomanie, et aujourd'hui contre les fractures, contre Paris, contre la dégradation de Paris. Et donc, voilà, c'est un choix de vie, c'est un choix qui peut être difficile, mais en même temps, voilà, pour Rachida Dati, rien ne la fera jamais céder parce qu'elle a ce combat qu'elle porte en elle.
Nelly Garnier, un tout dernier mot. On l'entend en vous entendant ce soir, la campagne poursuit son cours. Est-ce que vous confirmez que Nicolas Sarkozy sera bien nos meetings de Rachida Dati le 9 mars prochain?
Oui, depuis le début de la campagne, elle avait dit qu'il la soutenait. Ils ont un lien de fidélité et de loyauté qui est ancien, qui est profond. Et donc, ça nous fait très plaisir de retrouver Nicolas Sarkozy, surtout dans la salle Gaveau, qui est pour tous les Parisiens le signe d'une des plus belles victoires de la droite. Et je crois que tous les Parisiens sont en train de se dire que Rachida Dati est en train de renouer avec les plus belles victoires de la droite quand on a su rassembler très largement et très au-delà de notre camp et de notre famille politique. Voilà.
Eh bien, merci Nelly Garnier d'avoir été mon invitée ce soir. On comprend que la campagne a repris ses droits qui n'ont visiblement jamais perdu leurs droits, effectivement.
Merci à vous.
Europe 1. À suivre dans un instant, Nathalie Lévy.
Alors, changement de registre, mais alors absolument. Hein. C'est dans 10 minutes. Restez avec nous d'abord demain en France, demain dans le monde. Et puis, Saint-Valentin oblige, hein, du rock, de l'amour. On fait le tour ce soir des plus grandes chansons d'amour, celles qui nous ont toutes marquées. Pour en parler, un expert en la matière, Philippe Manœuvre, avec nous jusqu'à 20h dans ce studio. On va monter le son.
Et si vous voulez parler musique ou amour, ou les deux avec Philippe Manœuvre, n'hésitez pas à appeler le dès maintenant 3921, c'est le standard. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. C'est vendredi, hein. À tout de suite.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Et chaque jour avant 19h30, on prend un temps d'avance sur Europe 1 pour écouter le monde changer. Et on s'intéresse à ce qui va se passer demain.
Et demain, on s'installe à Nice, comme ça, où le coup d'envoi du carnaval sera donné dans l'après-midi. Bonsoir Frédéric Michel.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur. Le carnaval de Nice, c'est une institution, un incontournable, et on ne le sait peut-être pas. Mais c'est aussi le troisième carnaval au monde. Hein.
Effectivement Nathalie, après Rio et Venise, hein, Nice est sur la troisième marche du podium. L'an dernier, 200 000 personnes ont participé aux grandes parades et batailles de fleurs. Les corsos fleuris sont une des originalités du carnaval de Nice. Autre originalité, ce sont encore des Niçois qui confectionnent les décors bigarrés, les chars et les traditionnelles grosses têtes en carton-pâte. Je dis encore car depuis 1996, les carnavaliers se sont professionnalisés. Il faut répondre à un appel d'offres pour être admis. Chez les Pauvignas, cela fait 7 générations que l'on prépare le carnaval. Et pour cette 136e édition, excusez-moi du peu, qui a pour thème la mode, Pierre Pauvignat, ses enfants et ses petits-enfants ont confectionné le char du roi.
Malgré que ce soit un appel d'offres européen, pour le moment, c'est toujours des familles niçoises qui créent les chars.
Vous savez, c'est dans le sang, ça nous coule dans le sang quand on est tout petit, donc il y a une façon de faire, des volumes, il y a des caricatures, mais pas dans l'excès, parce qu'il y a vraiment une particularité dans le style, dans la façon, dans les couleurs, dans tout, une particularité qui est propre à Nice.
Et durant 15 jours, 41 troupes d'artistes de rue animeront ce carnaval.
Ah, c'est donc toute la ville qui s'enflamme, comme ça, qui va vivre au rythme de l'événement.
Hein. Effectivement, dans l'hypercentre, les visiteurs pourront assister au défilé et parade sur un parcours fermé et sécurisé, mais le spectacle est aussi un peu partout dans la ville avec les carnavals des quartiers. À Nice, c'est un véritable art de vivre. La première mention du carnaval remonte à 1294.
Oh là là. Ah oui, grosse fierté donc. Hein, merci beaucoup. Merci à vous Frédéric, Michel. On a pris note jusqu'au 29 février et l'entrée elle est gratuite pour les personnes déguisées de la tête aux pieds. Bon, on va y travailler. Merci à vous. Demain dans le monde, bon, avec vous Didier François. nous allons en Grande-Bretagne. Alors, changement de décor hein, ou démission surprise du chancelier de l'échiquier, le très puissant ministre des Finances qu'on ne connaît pas nécessairement chez nous. En tout cas, ça secoue clairement le gouvernement de Boris Johnson et les marchés de la City.
Oui, puis sans compter les Européens qui sont engagés dans les négociations sur les futures relations commerciales avec le Royaume-Uni depuis la ratification du Brexit le 31 janvier dernier. Par ses fonctions à la tête de l'économie britannique, Sajid Javid était un acteur clé de ces pourparlers plutôt compliqués et personne ne s'attendait à le voir tirer sa révérence à peine 3 semaines avant la présentation du budget 2020 qui était prévu pour le 11 mars.
Ah oui, alors que s'est-il passé pour qu'il prenne comme ça ces clics et ces claques en 2 ou 3 mouvements?
Eh bien, un gros désaccord avec le Premier ministre Boris Johnson qui, depuis sa victoire écrasante aux dernières législatives, a décidé de mettre l'ensemble des gros ministères à sa main. Il a nommé à ses côtés des conseillers spéciaux qui pilotent toutes les politiques du gouvernement depuis son cabinet du 10 Downing Street et qui exigeaient que les équipes du chancelier de l'équipier se rangent directement sous leur contrôle, ce qui est une rupture totale des traditions de forte autonomie du ministère des Finances en Grande-Bretagne et surtout une mise sous tutelle inadmissible pour un poids lourd du Parti conservateur qui était déjà ministre sous le gouvernement de Theresa May.
Voilà, donc le ton est donné, Boris Johnson y tranche, hein, il n'y a pas de quartier. Il y avait également un désaccord sur la politique entre l'échiquier quand même et le Premier ministre sur la politique budgétaire.
Oui, tout à fait, parce que Sajid Javid est un libéral, plutôt thatchérien, partisan d'une forte rigueur budgétaire et d'une imposition assez légère. Boris Johnson, lui, est plutôt populiste. Il a remporté les élections en promettant des investissements publics massifs, plusieurs milliards de livres sterling dans l'éducation, la police, les infrastructures, sans se soucier des risques d'endettement. Alors honnêtement, l'attelage pouvait difficilement fonctionner et le nouveau chancelier, qui s'appelle Rishi Sunak, il a 39 ans, sera beaucoup plus malléable et docile.
Ouais, il a plutôt intérêt. Hein. Vous nous dites quand même que sur le degré de représentation des minorités ethniques dans le système politique britannique, Sajid Javid est d'origine indienne, son remplaçant, et lui de parents pakistanais.
Voilà, pour les ministères les plus importants, c'est pas mal.
Bon. Merci beaucoup Didier François. Demain dans nos vies, Théophile Cossa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
On s'inquiète tous pour l'avenir de la planète, mais bonne nouvelle, on a peut-être trouvé une solution pour ralentir drastiquement le réchauffement climatique, nourrir nos vaches avec des algues.
Ouais Nathalie, alors pour vous expliquer, laissez-moi vous présenter Marguerite. Marguerite, c'est une très belle vache normande, elle broute tranquillement dans son pré. Problème, Marguerite pollue. Et oui, parce que dès que Marguerite pète, elle dégage du méthane, un gaz 25 fois plus nocif pour le climat que le CO2. Alors s'il n'y avait que Marguerite, ce ne serait pas grave. L'ennui, c'est qu'avec nos besoins en viande et en produits laitiers, ce sont 1,5 milliard de bovins qui dégagent chaque jour du méthane dans l'atmosphère. Et ce n'est pas anecdotique, hein, l'élevage animal est à lui seul responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre provoquées par l'homme.
Alors, des chercheurs du monde entier se mobilisent pour enrayer ces émissions.
Oui, déjà dans les années 2000, des Français découvraient qu'en ajoutant du lin dans l'alimentation des bovins, on pouvait réduire les émissions de méthane de 20%. C'était prometteur, mais des Australiens viennent de découvrir qu'en leur donnant en complément alimentaire une algue, au nom imprononçable, hein, Asparagopsis taxiformis, on pouvait réduire leur production de méthane de 80%. Appliquer ça à toutes les vaches de la planète, eh bien c'est comme si l'on supprimait l'ensemble du trafic automobile mondial. Alors pour ça, il faudrait qu'on produise chaque année 200 millions de tonnes d'algues. On n'y est pas encore, mais des entreprises américaines investissent et les recherches continuent. Un vaccin anti-méthane pourrait aussi apparaître d'ici 5 ans pour enfin laisser Marguerite péter tranquillement.
Oh. Vous auriez dû dire, vous auriez pu dire ébourré par exemple. Bon, allez, c'est pas grave, on passe pour ce soir. Merci beaucoup Théophile Cossa.
Europe 1. Dans la prochaine demi-heure, Nathalie Lévy, le programme avec
le
vous.
Le programme avec de l'info d'abord. 19h30, c'est le rappel des titres de Sébastien Krebs et puis de la bombe. Oh là là, c'est le jour des slows. Hein. de souvenirs d'adolescence et du rock pour cette Saint-Valentin. On fait le tour des anthologies avec Philippe Manœuvre aux commandes. Il arrive, il s'installe quasiment à ma place. Il vous raconte tous les dessous de ces titres qui nous ont marqués, qui nous ont fait danser aussi.
Vous avez peut-être vous aussi un titre rock, rock et amour qui vous rappelle plein de souvenirs. Venez nous le dire au 39-21, venez poser vos questions à Philippe Manœuvre. Il est avec nous jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir, c'est sur Europe 1. Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Avec vous, Sébastien Krebs, pour le rappel des titres.
La République en marche en conclave ce soir pour trouver un candidat pour Paris et remplacer Benjamin Griveaux après l'électrochoc de son renoncement. Course contre la montre enclenchée, les listes doivent être déposées dans 13 jours. La guérilla parlementaire reprend lundi sur la réforme des retraites. 41 000 amendements ont été déposés avant l'examen dans l'hémicycle. La liberté pour 181 rapatriés de Wuhan après 14 jours de quarantaine. Ils ont pu sortir du centre de Carilroué aujourd'hui en bonne santé. Renault n'exclut pas de fermer des usines. Plan d'économie annoncé après des pertes enregistrées l'an dernier. Et puis le foot début ce soir de la 25e journée de Ligue 1. Monaco reçoit Montpellier à 20h45.
Merci Sébastien Krebs. L'info avec vous lundi 18h depuis Chanteloup-les-Vignes pour une édition spéciale délocalisée à 4 semaines des municipales. Vous serez sur place avec des acteurs, des associations, un certain nombre d'intervenants pour nous faire vivre cette première sortie, cette première délocalisation d'Europe 1 pour les municipales sur place depuis cette banlieue, à peu près à une heure de Paris. Hein, pour
voilà.
Situer.
À lundi.
À lundi, Sébastien Krebs. Et Anissa nous dit qu'il y aura du soleil demain.
Oui, une belle journée, un beau samedi, de l'Alsace à l'Occitanie, des Alpes au Languedoc, en passant par la vallée du Rhône, le massif central, le Limousin. Si vous habitez dans l'une de ces régions, bah demain vous allez passer une journée sous le soleil avec de très belles éclaircies et quasiment pas de nuages. Des Ardennes à la Gironde en passant par la Bourgogne, la région parisienne, le centre-val de Loire, là le ciel est voilé mais vous verrez quand même le soleil. Là où la journée sera la moins belle, c'est sur le quart nord-ouest, hein, sur la Bretagne, la Normandie et le nord, temps très humide et très gris. Les températures demain matin, elles sont fraîches, moins 1 Aurillac et Rodez, 2 à Avignon, 8 pour Paris et dans l'après-midi, ça grimpe, des températures en hausse, 11 à 15 sur la moitié nord, 21 à 22 au sud de l'Aquitaine.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec jusqu'à 20h en ce jour de la Saint-Valentin, de la musique qui adoucit les mœurs, ça fait du bien. Avec un grand spécialiste, vous recevez Philippe Manœuvre et on parle musique d'amour et rock.
Exactement.
Soir.
Bonsoir, Manœuvre.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. On monte le son où que l'on soit ce soir, dans sa voiture ou à la maison. Grâce à vous, journaliste, écrivain, spécialiste de rock, Philippe Manœuvre, qui connaissait toutes les coulisses, tous les dessous de tous ces morceaux qu'on va écouter ensemble et dont vous allez nous raconter l'histoire. Merci de nous accompagner ce soir. Vous êtes aussi, je le dis en préambule, on en parlera dans un instant, parrain et maître de cérémonie de Rock in 1000. Ce concert rock avec plus de 1000 musiciens dans la deuxième édition aura lieu au Stade de France le 4 juillet 2020.
Absolument.
Vous allez tout nous dire dans quelques minutes. Mais d'abord, écoutons un peu de musique si vous le voulez bien et racontez-nous tout de certains de ces titres sur lesquels on a forcément dansé. On va commencer avec Funny Valentine.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
Elvis Costello, Philippe Manœuvre.
Racontez-nous. Oui, c'est Elvis Costello. Et alors ça, c'est une chanson qu'il a enregistrée spécialement pour la Saint-Valentin 1979. Et il y avait un concert le 14 février 1979 à Los Angeles. Et à la sortie du concert, on donnait un 45 tours de My Funny Valentine qui n'est jamais sorti dans le commerce. C'était le cadeau d'Elvis Costello à ses fans et à... aux gens qui étaient amoureux. Donc c'est devenu un disque très... Alors moi, j'avais un copain dans la salle qui en a pris un pour moi, qui me l'a donné. Et j'y tiens, c'est... Mais c'est sublime parce que je crois que c'est très rock parce que Elvis Costello n'a absolument pas une voix de crooner, mais il essaye de faire le crooner. Et ça, c'est rock.
Ça, c'est rock. Enregistré par Chet Baker, Frank Sinatra et Miles Davis
voilà,
aussi.
Oui,
hein.
C'est un des plus grands standards du jazz. Hein, My Funny Valentine, c'est vraiment la chanson...
Un classique, quoi.
Voilà, la chanson amoureuse.
Ouais, la chanson amoureuse par excellence. Alors
voilà,
les amoureux,
c'est la plus belle.
Les amoureux, montez encore le son, vous allez forcément reconnaître ces quelques notes. Oh là là.
Alors c'est le choix d'Antoine sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ah ouais.
Voilà.
Antoine qu'on embrasse et Philippe Manœuvre qui va nous parler
de ce groupe.
Les Scorpions.
Les Scorpions, Steel Avenue. Bah,
groupe allemand de Hanovre, hein, qu'on a découvert aux Enfants du Rock dans les années 80, 84. C'est là où ils ont sorti, 85, ils ont sorti l'album sur lequel on trouve ce slow. Et ça a été le retour du slow. Ça a vraiment, c'est
avec
en
un
France,
grand S, hein.
Oui, ouais. Mais c'est en France que ça a le mieux marché, cette chanson. Les Français, il y a quelque chose dans la durée du... Enfin, il y a d'autres chansons des Scorpions qui ont mieux marché dans d'autres pays, mais pour la France, c'est I'm Still Loving You. Ouais. Et il paraît même que quand le disque est sorti, il y a eu une montée de naissance de bébés.
Oh là, alors, d'accord.
Franchement, je pense que ce morceau a fait des Scorpions presque un groupe français. Quoi.
Mais avant d'écouter un autre morceau, Philippe Manœuvre, bon, il n'y a pas de recette pour écrire un morceau, évidemment, mais qu'est-ce qui fait qu'il reste dans l'histoire plus qu'un autre et même qu'il survive au groupe parfois, hein.
Ah oui.
Scorpions, on les entend toujours ? Non.
Oui, si,
ah bon,
les Scorpions, bon, on les entend partout. Vous savez, les musiques ont changé, tout a changé. Aujourd'hui, on parle de musique urbaine, le hip-hop, le rap, l'électro, la pop, etc. Bon, donc, les Scorpions continuent, ils ont une très jolie carrière, d'accord, ils font des grosses tournées mondiales et c'est toujours plein. Et à chaque fois, ils sont obligés de jouer ce morceau, ce slow. Alors, c'est un secret, c'est un mystère. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens ?
Ouais. Pierre nous pose une petite question, plutôt vous pose une petite question. Bonsoir Pierre, je vous appelle de Vendée.
Bonsoir.
Ce soir. Bonsoir,
oui,
bienvenue, allez-y.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Monsieur Manœuvre.
Bonsoir Pierre.
Allez-y.
Bonsoir, cher Philippe, est-ce que vous m'arrêtez si je dis une bêtise ? Comme moi, vous pensez que les musiciens de hard rock sont les plus balèzes pour nous produire les plus belles ballades,
ouais, bien sûr,
les plus belles chansons d'amour musical, quoi. Ah,
bon,
c'est
vous,
vrai,
vous avez
que
fait votre choix.
Ces musiciens qui sont qui bougent des énormes masses de sons, qui font des rocks sauvages, qui galopent, qui cavalent. Quand ils s'arrêtent et qu'ils disent on va faire un slow, c'est les meilleurs parce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent. Quoi. C'est ce qu'on appelle la balade qui tue, la power ballade. Oui. Enfin les Américains.
Ce sont les rockers les plus romantiques en fait. C'est ça que vous êtes en train de.
Les rockers les plus romantiques. Enfin ouais, je le pense. Hein,
oui c'est ça. Vraiment, hein, c'est un peu anachronique quand même. Mais
pourquoi
bah non mais
non,
c'est.
Non parce que le rocker est un amoureux. Hein, il a toujours une fille en tête. Ouais. Le rocker c'est quelqu'un qui aime la vie quoi.
Ouais, la preuve. Merci à Philippe.
Guns N' Roses.
Ah, les Guns N' Roses.
Alors ça
c'est une balade,
Child...
ça ?
Non, c'est pas une balade. C'est Sweet Child of Mine, et c'est une chanson coup de fou, sur un coup de foudre. Ouais. C'est-à-dire que le chanteur nous dit, j'ai vu cette fille, je la supporte pas, et puis il la regarde, elle le regarde, et il se passe un truc. Il se passe, ça dure, c'est une chanson assez longue,
oui,
hein, qui dure
7 minutes, je crois. Ouais.
Et à ce moment-là, le chanteur dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? What we gonna do now ? Il y a ce côté, c'est plus fort que nous. L'amour nous a submergés. Cette fille qu'au début de la chanson il trouvait tout à fait moyenne, là quand il l'a regardée dans les yeux, il a compris que c'était la femme de sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer après quoi ? Faut prévenir des gens, faut tout changer, vous voyez, c'est une histoire qui a raconté. Je trouve magnifiquement, c'est une des chansons les plus populaires des Guns N' Roses. Ouais. Et j'espère qu'on arrivera à la faire au Stade de France.
Ah,
parce que
bah
vraiment,
oui,
ça,
le
c'est
4 juillet.
Ça, c'est à des grands standards métal. Et je pense que tout le monde aurait le cœur bouleversé si on fait cette chanson.
Alors, évidemment, on va reparler du 4 juillet 2020, Rock in Mill, ce concert de rock. Bien sûr, vous en êtes le maître de cérémonie. On va encore écouter des morceaux, si vous le voulez bien, dans un petit instant.
Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la Saint-Valentin.
Exactement, donc on est cohérent.
Amour et musique jusqu'à 20h dans votre grand journal du soir. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et en ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour de l'amour, on a décidé de fêter l'amour en musique et en rock avec Philippe Manœuvre. Il est votre invité jusqu'à 20h. Vous pouvez lui poser toutes vos questions, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, Nathalie Lévy. Philippe Manœuvre, Michel, les Beatles.
Parce que là, on est en 1965. Et un an avant, les Beatles étaient à Paris, à l'Olympia, les spectacles Musicorama avec Sylvie Vartan en première partie. Et donc, ils ont découvert la France. Ils sont restés 3 semaines. Ils ont arpenté les Champs-Élysées. et ils ont rencontré des jeunes filles, c'est clair. Et là, Paul McCartney rend hommage. Alors, est-ce qu'il rend hommage à Françoise Hardy ou à Sylvie Vartan ou à quelque autre chanteuse yéyé qui traînaillait dans les coulisses de l'Olympia? On ne saura jamais. Mais enfin, il s'est passé quelque chose avec la France et les Beatles. Là. Ah, oui, et puis c'est... alors, Michel, sous la... Moi, ça nous fait fondre parce que c'est quand même le plus grand groupe pop de tous les temps qui d'un seul coup se met à chanter La Petite Française. C'est merveilleux.
C'est un super
aussi.
Hommage.
C'est
oui. Est-ce que cette année-là, il y a eu un pic de naissance de jeune fille qui s'appelait Michel?
Donc, c'était un prénom très à la mode dans les années 60.
Les Martines et Michel, tout ça. Michel qui reçoit le Grammy Award de la chanson de l'année, d'ailleurs, en 1967, évidemment. Ce qui va nous emmener vers les victoires de la musique dans un petit instant. J'aimerais bien que vous me donniez un petit pronostic ou une lecture, en tout cas, de cette édition. D'abord, parlons de cette grosse actualité pour vous. Le 4 juillet 2020, Rock in 1000 au Stade de France. Rien que ça, j'allais dire Philippe Manœuvre. Deuxième édition, hein, oui. D'ailleurs. Il y avait déjà eu, je crois, 50 000 spectateurs.
Plus de 50 000
lors de la première.
000
des
chose,
milliers oui. de musiciens.
1038 musiciens sur la pelouse, là où il y a les joueurs de foot d'habitude, on les installe sur la pelouse. Donc j'ai 380 batteurs, 240 bassistes, 360 guitaristes, 175 chanteurs et chanteuses. Et tout ce petit monde a répété pendant des mois, des semaines. Ils ont répété les morceaux et ils viennent jouer les grands classiques.
Mais alors
rock.
Justement, parce que tout à l'heure, on écoutait Guns N' Roses et vous nous disiez, ça c'est un incontournable, il faudra qu'on le joue. Comment vous faites le tri dans les morceaux pour avoir vraiment le top 10 et plus alors, que ça, il en faut plus.
Quand chaque fois que je parlais à Mick Jagger, je lui disais, mais pourquoi vous jouez toujours les mêmes morceaux? Il me disait, parce qu'on est dans des stades, Philippe, et qu'un stade... On ne peut pas faire certaines chansons un peu difficiles ou un peu moins évidentes. Dans un stade, il faut du lourd, il faut des standards. J'ai découvert qu'il avait raison, bien sûr. Et donc, quand on a fait la première édition, il y avait du Kings, il y avait You Really Got Me, des Kings, il y avait du Stones, il y avait du Led Zeppelin, du Jimi Hendrix. On a mis les grands standards. Il faut que... Les gens reconnaissent les morceaux parce qu'on a un son extraordinaire.
Extraordinaire. Bah, attendez, mais avec plus d'un millier de musiciens, comment on fait? Comment
alors,
on fait pour,
chaque musicien
pour les faire
amène,
répéter déjà?
Chaque musicien amène son ampli 100 watts. On leur envoie des tutorings. La répétition, l'apprentissage des morceaux, ils le font tout seuls. Après, ils se mettent à répéter des fois à 30, 40. Ils se retrouvent dans les régions par Internet. Ils se regroupent pour faire des répétitions ensemble. Mais après, on répète les deux jours avant le concert. On s'installe, on répète. Et on fait le spectacle le samedi, quoi. Voilà. On a vécu une aventure incroyable. Ouais. Le son de ces 800 amplis 100 watts, plus les 300 batteries qui cognent, c'est un son unique. On a vécu quelque chose. Quand on a fait on a fait une chanson de David Bowie, Rebelle, Rebelle, et il y avait un grand spécialiste de Bowie qui était là et qui pleurait. Il était à côté
comment
de moi.
Comment c'est arrivé ce projet, Philippe Manœuvre?
C'est les Italiens qui ont eu l'idée de faire ça parce qu'ils habitaient une toute petite ville, Cesena, et ils ont découvert que les Foo Fighters faisaient une grande tournée en Italie, mais ils ne venaient pas à Cesena. Mmh. Et donc, il y a un type qui s'est dit « Et si on jouait deux morceaux des Foo Fighters dans le stade de Cesena à 1000 musiciens, sûrement ça attirerait leur attention ». Il y a eu 28 millions de vues sur Internet. Les Foo Fighters sont arrivés en courant, ils ont joué à Cesena et le Rock in 1000 était parti.
Vous sur scène, c'est possible ou pas? Au Stade de France?
Mais oui, j'y suis. Là.
Non mais d'accord, mais en jouant.
Je joue du tambourin. Hein. J'ai un porte-voix, j'ai des pancartes, je fais le boulot, je fais le job, mais rassurez-vous, je ne chante pas.
Bon, bah mince alors. Non. Bon, il va falloir y repenser pour la troisième édition. On se reparle dans un petit instant, Philippe Manœuvre. Évidemment, vous êtes avec nous jusqu'à 20h et en musique. Elton John, bien sûr. Your Song, 1960. Le rock et l'amour, c'est le programme de votre fin de journée sur Europe 1 jusqu'à 20h dans votre grand journal du soir. Et de la dégustation aussi, dans un instant, restez avec nous. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Et vous le savez, le vendredi, on passe à table, on prépare le week-end avec gourmandise grâce à Marion Sauveur. Il est temps de déguster, toujours avec votre invité,
Nathalie Philippe Manœuvre, bien sûr. Vous allez déguster avec nous, Philippe Manœuvre.
Marion Sauveur, bienvenue dans ce studio.
Merci.
Bonsoir, vous nous avez ramené du citron de Menton. Menton, c'est juste à côté de Nice, bien sûr, le sud-est de la France qu'on salue. C'est demain le lancement de la fête du citron à Menton, 87e édition, jusqu'au 3 mars avec le défilé des chars décorés avec des agrumes.
Bah tiens.
Ben oui. Et cette année, le thème, c'est les fêtes du monde. Alors, il y aura 12 chars qui rappelleront le carnaval de la Nouvelle-Orléans, la fête des morts mexicaines ou la Saint-Patrick irlandaise, avec donc des sculptures géantes décorées d'agrumes, des oranges, du citron. Et tous ces fruits viennent d'Espagne, 180 tonnes d'agrumes.
Rien que ça, avec des citrons de menton, pas avec des citrons de menton.
Eh ben non, pas comment de citrons de menton. Alors, on est en pleine saison pourtant du citron de menton, puisqu'on le récolte. Du mois de décembre à avril, mais il n'y a que 40 tonnes de citrons de menton qui sont produits chaque année. Alors, il faut savoir que les citrons n'ont pas toujours poussé à menton, hein, bien sûr. Les citronniers sont originaires d'Asie. C'est au 15e siècle qu'ils ont été débarqués à Menton par les marins qui buvaient des jus de citron pour se protéger du scorbut. Et la culture des citrons est à son apogée à Menton au 18e siècle jusqu'au début des années 1860, où elle va décliner à cause de maladies, d'intempéries et de périodes de gel intense. Mais depuis près de 30 ans, la ville de Menton a redynamisé cette culture du citron. Et ce citron de Menton fait partie des citrons qui ont obtenu l'indication géographique protégée, l'IGP, depuis 5 ans. Et il y a 35 agrumiculteurs aujourd'hui qui produisent ces citrons de Menton.
Alors c'est quoi son petit truc en plus au citron de Menton?
Alors déjà, il est cultivé sur 5 communes en Menton et autour. Il est récolté à la main à maturité. Il est sur un terroir un peu particulier avec un sol argileux. Sableux et les talus de ces terrasses en fait emmagasinent la chaleur la journée et rediffusent cette chaleur pendant la nuit. C'est un petit microclimat qui permet à ce citron d'avoir un goût beaucoup plus doux que tous les autres citrons classiques, avec une chair qui est 4 fois plus sucrée, moins acide et avec des arômes intenses. Et puis vous l'avez à côté de vous,
ce
citron
de
Menton.
Cette petite merveille.
On le reconnaît à sa couleur jaune vive et regardez, il a un petit sourire à l'opposé de la feuille.
Ah oui,
c'est un petit sourire, cette petite déformation, plus ou moins marquée à la base
comme
du
ça.
Voilà.
Exactement. Super. Comment on le cuisine, ce citron de Menton?
Eh bien, on n'est pas obligé de le cuisiner. On peut le manger comme ça, nature. On peut croquer dans
comme
le citron.
Orange, comme une orange.
Comme une pomme, plutôt.
Une pomme.
Parce qu'on peut manger tout dans le citron de Menton, et l'écorce, et le ziste. Vous avez d'ailleurs du citron, hein, donc il faut que vous le goûtiez comme ça, nature, pour que vous voyez.
Alors, attendez, je commence par la tarte, mais juste après.
Alors, Anissa, elle en a.
Alors, mais je mange la peau?
Oui, c'est
du
ça.
Du citron, donc.
En petite tranche, là, comme ça.
Ça va piquer les yeux, hein.
Non, ça pique pas trop,
hein,
c'est
Anissa,
beaucoup
bravo.
Plus doux.
Ah, ça pique pas du tout.
Justement, tous ceux qui n'aiment pas l'acidité.
Philippe Manœuvre. Moi, je connais, j'adore
vous
les citrons.
Vous êtes un rocker, vous avez
pas
l'air. Mais oui, c'est vrai.
C'est très,
très inattendu.
Et oui. C'est la particularité de ce citron. Alors, on peut réaliser, bien sûr, avec ces citrons de Menton, une tarte au citron, comme celle que vous avez là, celle de Hugues Pouget de la maison Hugo et Victor. Alors, une pâte sablée, un crémeux au jus et zeste de citron de Menton. Là, c'est à partager pour quatre. Pour deux, on en a même pour quatre, largement.
Oui, ou pour une personne, c'est bien sûr. On salue la maison de Pouget, on adore. On a goûté.
On sent que c'est tout doux. Hein.
C'est léger, c'est un nuage de citron.
Ceux qui aiment l'acidité peuvent être un peu frustrés par ce citron de Menton.
Allez, une petite recette vite fait à faire à la maison.
De la confiture, pourquoi pas, toute simple, avec l'écorce et le ziste. Vous mettez ça dans du citron, dans du sucre, vous faites confire. Et puis, sinon, vous avez des citrons confits que vous pouvez faire à la maison avec du sel et du sucre. Ça se fait tout facilement. Mauro Colagreco, le chef 3 étoiles de Menton, réalise notamment des citrons confits. C'est délicieux.
Très bien. On a quand même, pour l'instant, une vraie préférence pour la tarte. Enfin, je veux dire, la recette maison, on s'y attellera aussi.
Il faut essayer.
Merci beaucoup, Marion Sauveur. On vous retrouve demain à la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Deux mots du programme?
Et oui, quels sont les poissons qu'on peut consommer, puisque lundi débute la semaine de la pêche responsable. On parlera de nuggets et on sera avec Chantal Goya.
Oh là là, vous embrasserez pour moi.
Avec
j'adore
plaisir.
Chantal et Jean-Jacques. À 11h. Hein.
Oui, 11h, voilà, jusqu'à 12h30.
On est complet. Merci beaucoup Marion Sauveur, vous ne repartez pas avec vos tartes, vous nous les laissez avec Philippe Manœuvre. On écoute de la musique, on déguste et on écoute quoi? On écoute l'homme de ses victoires de la musique, enfin, personnellement.
C'est presque toi, presque moi, ces amoureux.
Évident, là, le
vous
grand
aussi,
retour
hein,
du
magique.
Alain Souchon a réussi son retour.
Là,
il y avait beaucoup de compétitions cette année, il y avait des albums de tout le monde et c'est lui qui emporte un peu l'adhésion générale, en tout cas des journalistes et des professionnels du métier.
Et oui, alors il est évidemment avec Angèle et Philippe Catherine, hein, en artiste de l'année, album de l'année, chanson originale avec Presque. Comment vous expliquez Souchon? C'est quoi? C'est un enfant du rock aussi?
Oui, parce que ben, Souchon, je crois que c'est son humour qui triomphe, sa décontraction, son détachement. Les gens l'ont beaucoup apprécié pendant toute cette campagne de promotion et de tournée. Là, apparemment, les concerts sont extraordinaires. Puis il commence à avoir un tel lot de morceaux fabuleux.
Ouais. Allô, il a 75
ans. Bobo, presque là, mais ça fait... Ouais. Une carrière fabuleuse, donc tout le monde se dit « Oh, il est là !» Et puis, là, c'est un humour ravageur qui n'appartient qu'à lui et qui fait et qui passe très très bien auprès de tout le monde.
Il a 75 ans, Alain Souchon, mais c'est un homme sans âge, hein. Voilà, on ne le voit pas vieillir.
Il fait partie du club des 27.
Complètement. C'est son 15e disque et on adore, donc évidemment, on croise les doigts pour lui ce soir, même si je pense qu'il n'a pas besoin de ça, clairement. On adore ce titre, en tout cas, presque. Je voulais quand même avoir votre regard globalement sur ces victoires de la musique-là, parce qu'il y a eu des changements. Les musiques du monde ne sont pas supprimées, mais elles sont transférées dans les victoires du jazz. Il y a la disparition comme ça du rap, de l'électro, du rock.
Et oui, il n'y a plus de catégorie rock.
Mais du coup, vous n'y allez pas, vous vous fuyez ce soir.
Non, ce soir, je boude, je reste chez moi avec mes enfants, tout va bien. On regardera la cérémonie à la télévision, mais c'est un état de fait, en fait. Hein.
C'est-à-dire ?
Il n'y a pas eu un groupe de rock signé en France par une majeure depuis 14 ans. Le dernier, c'était les Bébés Brunes en 2005. Donc pourquoi on ferait une victoire pour la donner à qui ? Je veux dire, à partir du moment où l'industrie du disque a décidé...
Mais pourquoi il n'y a plus de rock en France, Philippe ? Comment ça se fait ?
Ils ont décidé de valoriser d'autres musiques. L'époque du rock était terminée. Ils sont passés tout seuls. Comme quand ils étaient passés au CD, ils n'avaient pas demandé aux gens « Vous voulez garder vos vinyles ?» Je veux dire, un jour, on n'a plus trouvé que des CD. Ben là, ils ont décidé que maintenant, le monde de la musique, c'était urbain, électro, rap...
Le manque de diversité aussi qui a été pointé. Non mais quand même, ces victoires de la musique, au même titre que les Césars, on a vu toute la polémique autour et on a vu démission.
Les victoires de la musique, elles ne sont pas opaques. Changent de président tous les deux ans, il y a un nouveau président, là c'est Romain Vivien, avant c'était la jeune fille d'Universal.
Et d'ailleurs, il s'est expliqué sur les critiques, il a répondu point par point. Mais ça a encore de l'avenir, ces cérémonies-là, franchement, Philippe Manœuvre.
Bien sûr. Ah, mais c'est très important. Je crois que c'est important et pas que pour les pros. Je crois que c'est important parce que c'est une photo. On dit voilà, cette année, il s'est passé ça. Et après, la presse peut dire mais attendez, vous avez oublié ça. Et pourquoi il n'y a pas d'ailleurs Rockin' Mill dans les spectacles
exemple,
de l'année
bien sûr.
Pourquoi on n'a même pas été. Mis dedans, on peut se poser la question, mais c'est pas grave.
Et pour l'artiste, ça change quelque chose ? Angèle, si elle a une victoire ce soir, ça va changer quelque chose pour elle ?
Écoutez, moi j'ai remis la victoire l'an dernier à Clara Luciani, et je pense que ça a changé beaucoup de choses, parce que à partir du moment où vous avez une victoire, tous les gens, les radios, les journalistes, tout le monde dit attention, cette personne a quand même été distinguée par les membres de sa profession. Clara Luciani, elle était vraiment une ombre il y a un an, et aujourd'hui c'est devenu une énorme vedette. Et cette victoire de la révélation qu'on lui a remis l'an dernier, c'est celle qui a changé sa carrière.
Un petit pronostic là pour ce soir sur le meilleur artiste ?
Oh, c'est Souchon, à mon
avis. C'est Souchon et Clara Luciani ou Angèle ?
Clara Luciani ou Angèle, alors après... Vous savez que chaque maison de disques a ses votants et que Universal a beaucoup, beaucoup, beaucoup de votants.
Et Universal, c'est qui donc ?
Universal, c'est Clara.
Ah, Clara Luciani qui était ce matin chez Mathieu Béliard et qui nous disait tout son stress, d'ailleurs.
La débutante qui arrive. Hein, là, c'est la confirmation de son talent.
Merci beaucoup Philippe Manœuvre de nous avoir accompagnés ce soir, le 4 juillet 2020 au Stade de France Rockin' Mill. Ce sera la deuxième édition, votre livre rock sorti en octobre 2018. En livre de poche là, il revient, donc il faut se le procurer. Merci de nous avoir accompagnés ce soir.
Merci à vous.
Émilie Mazoyer, Philippe Manœuvre et Nathalie Lévy.
Coucou Phil Man. Il faut aller au Stade de France. Moi j'étais l'année dernière, c'était formidable. Il faut absolument aller voir ce spectacle. Rockin' Mill, ça fait des frissons tout le temps.
C'est vrai.
Merci Émilie. Elle est trop cool.
On a pris date. Merci. Alors Émilie, le programme du jour.
Eh bien c'est vendredi. Alors le vendredi en musique, c'est comme le mercredi au cinéma. C'est le jour des nouveautés. Bande d'essai des nouveautés tout à l'heure avec Agnès L'Église.
Parfait. Et ben voilà.
Bonne soirée.
Merci Émilie Mazoyer.
Elle est mangée sa tarte au citron.
Excusez-la.
On regarde un petit morceau.
Attendez, Philippe est complice, il a mangé aussi.
Absolument.
Merci Émilie Mazoyer, on vous écoute. Oui, évidemment. On monte le son avec vous. Merci Philippe Manœuvre, Marion Sauveur, Anissa. Très belle soirée à tous. Très bon week-end. Le 18-20 revient lundi depuis Chanteloup-les-Vignes pour une édition spéciale. On démarre les municipales en région tous les lundis. On vous accompagne sur le terrain le 18-20 pour écouter aussi Le Monde Changé. Très belle soirée à tous. Très bon week-end. À très vite.
Bon week-end. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.